public moins nombreux que d'habitude et je suis déçue et vexée. Et d'ailleurs, ceux qui ne sont pas là vont manquer quelque chose de très intéressant. Donc, ceux qui sont là mais connaissent très bien Bernard Toullier. Je devrais utiliser la formule habituelle que nous ne présentons plus. Mais je dirais tout de même quelques mots sur cet historien de l'architecture, conservateur général du patrimoine, éminent spécialiste du patrimoine architectural moderne des 19e et 20e siècles et fervent défenseur de l'architecture contemporaine. Il a notamment œuvré au sein de la DAPA, alors que François Barré était directeur, je crois, Bernard, pour la création du label 20e siècle, avec la participation active des directions régionales du ministère de la Culture. Alain Rieu devrait être parmi nous, je pense qu'il va nous rejoindre. Bernard Toullier est donc attaché au ministère de la Culture et de la Communication. Plus précisément, il exerce ses compétences dans le département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique. Expert auprès du ministère des Affaires étrangères ainsi que de l'UNESCO, il conduit des missions en France et à l'international, notamment en Afrique. Bernard Toullier est un chercheur, responsable du programme Architecture et de la villégiature au CNRS. Il est l'auteur de nombreuses publications, Architecture et patrimoine du XXe siècle en France en 1999, La Côte d'Émeraude, la villégiature balnéaire autour de Dinard et Saint-Malo en 2001, Ville d'eau, architecture publique des stations thermales et balnéaires en 2002, Kinshasa, architecture et paysage urbain en 2010, Villégiature des bords de mer, architecture urbaniste 18e, 19e, 20e siècle 2010. Donc cette sélection est axée évidemment sur le sujet dont il va nous parler ce soir et disons, qui est le propos de l'ouvrage qui vient d'être publié aux éditions du patrimoine. Moi, je rappelle comme ça immédiatement le très beau livre consacré aux aéroports. Voilà, c'est un monument d'architecture, voilà, qui fait l'éloge de cette architecture spécifique des aéroports. Donc, je disais qu'il était chercheur, auteur de publication. Donc, il est en effet là pour donner cette conférence à l'occasion de la parution donc, de l'ouvrage « Villégiature des bords de mer ». Alors, en quelques mots, avec 5533 km de côte, la France jouit en effet d'un patrimoine balnéaire exceptionnel qui s'est construit pendant plus de deux siècles. Bernard Toullier rencontre dans cet ouvrage de l'exploration de trois siècles d'histoire. Il nous rappelle en effet que c'est au XVIIIe siècle que s'est formée dans l'aristocratie britannique l'idée des séjours au bord de mer pour prendre les eaux et le bon air. Il restitue donc l'histoire des bains de mer à travers le prisme des formes architecturales et paysagères, du tourisme et des pratiques urbaines. Ce bon et beau livre, merveilleusement documenté, nous instruit sur l'évolution des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles dans lesquelles agissent les acteurs de l'aménagement du littoral, promoteurs et architectes, usagers et pouvoirs locaux, qu'ils soient élus ou monde de l'économie. En ce sens, ce livre a aussi valeur d'essai critique sur la société industrielle ou plutôt sur l'industrialisation de la société, mise en perspective avec l'histoire du contexte social et économique qui a généré l'essor de la villégiature à l'échelle de toute l'Europe. La villégiature qui a créé une architecture et un urbanisme fondés sur des représentations culturelles, voire des idéologies, qui constituent un corpus mettant en lumière un véritable modèle de société. Bernard Toullier définit la station balnéaire comme un nouveau type d'établissement humain qui s'est formé pour répondre aux aspirations de la société des loisirs. Et vous entendrez sûrement ce soir que ces plaisirs étaient certes réservés aux plus riches au départ et qu'elle s'est amplifiée avec la démocratisation des loisirs. Je m'arrêterai là car Bernard Toullier va nous donner une conférence avec le talent qu'on lui connaît, mais je voudrais ajouter que c'est précisément son ardeur toujours vive à vouloir transmettre qui est aussi la raison pour laquelle il forme le projet d'une grande exposition d'architecture consacrée à l'architecture balnéaire, pour laquelle il a sollicité Art en Rêve. Et nous travaillons, c'est laborieux, au montage d'un dossier européen pour justement réaliser cette exposition qui va mettre en partage les recherches qui ont été menées par le réseau de chercheurs avec lequel tu collabores depuis de nombreuses années à l'échelle européenne et même qui va s'élargir et se connecter avec d'autres territoires au-delà de notre Europe. Voilà. Ensuite, la conférence se prolongera par une conversation avec Claude Laroche, qui est architecte, qui est aussi membre de l'association d'Arc en Rêve, membre fondateur. Claude Laroche est collaborateur depuis 1975 de l'inventaire général du patrimoine culturel pour l'Aquitaine, qui est aujourd'hui sous la tutelle du conseil régional. Il y a eu des transferts, on dit de compétences, je ne sais pas comment on dit. Voilà, avant donc l'inventaire général du patrimoine, enfin des monuments historiques, on disait comme ça tout simplement. Non, mince. Alors je répète, l'inventaire général du patrimoine culturel était donc sous l'égide du ministère de la Culture. Il a été transféré aux collectivités locales et à la région et aux régions. Donc il est aujourd'hui à la région Aquitaine. Il s'est principalement consacré, Claude Laroche, à l'histoire de l'architecture des 19e et 20e siècles. Et je redis l'architecture moderne parce que moi-même j'insiste là-dessus. Qui suit une béotienne et qui est beaucoup appris en travaillant et en menant le projet d'Arc en Rêve, avec de nombreuses rencontres. Effectivement, je voudrais rappeler au public non spécialisé qui est ici dans la salle que le 19e était furieusement moderne, voilà, et qu'on a beaucoup à apprendre de la modernité avec le 19e siècle. Les études de Claude Laroche, notamment sur l'œuvre de l'architecte Paul Abadie, l'a mené à diriger expositions et catalogues qui ont marqué la réflexion sur l'architecture religieuse et la restauration monumentale du XIXe siècle. Mais ses recherches sur l'architecture de l'entre-deux-guerres et des côtes landaises à Osegor au Pays Basque en font aussi un spécialiste du régionalisme architectural et de l'architecture de la villégiature. Il est également expert en matière d'architecture des hôpitaux. Et il n'en a pas moins travaillé sur l'ensemble des domaines de l'architecture publique et privée des deux derniers siècles. Voilà. Et donc, Claude prolongera la conférence, enfin, il prolongera ensemble la conférence par une conversation et peut-être même des propos contradictoires. Ça, tu vas oser contredire le maître.
C'est lui qui est là. C'est qui?
Merci Francine et merci Arc en Rêve. Je crois que la dernière fois que j'étais venu ici, c'était beaucoup plus sur l'architecture du XXe siècle et qui intéresse davantage. Donc là, on a fait une recherche plutôt thématique en équipe pendant une vingtaine d'années, depuis les années 1988-89 jusqu'aux années 2009. Donc c'est un travail en équipe qui est présenté et sur l'ensemble de la côte française métropolitaine, donc depuis Brédune jusqu'à Hendaye et depuis Portbou jusque donc à la frontière italienne, avec quelques annexes sur Monaco qu'on a annexé à la France pour des raisons de continuité historique et de continuité également architecturale. Voilà. Donc l'histoire de ces stations balnéaires françaises a débuté donc il y a plus de deux siècles. En fait, elle a débuté depuis la période romaine et bien avant, mais en tout cas le renouveau donc du balnéaire. Donc ces idées de séjour temporaire en bord de mer pour prendre les eaux et le bon air, ou pour se reposer, ou pour se distraire, est née au XVIIIe siècle dans les cercles aristocratiques, britanniques, français, pour se développer largement au XIXe siècle, jusqu'à devenir aujourd'hui, pour chacun d'entre vous et d'entre nous, un élément essentiel de loisir pour toute la société. Donc pour satisfaire cette aspiration, un nouveau type d'établissement humain est né entre la mer et la terre, donc sur la frange du littoral, et donc c'est ce qu'on a appelé de façon générique les stations balnéaires. Alors les hypothèses de travail qui ont été les nôtres et qui ont généré beaucoup de recherches avec les universitaires, avec les chercheurs de l'inventaire, des monuments historiques, des écoles d'architecture. Et donc, il y a toujours eu un groupe qui, depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui, se réunit. Il s'est encore réuni la semaine dernière. On était une centaine donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour faire le bilan un peu de ses recherches sur la villégiature, qu'elle soit thermale, en bord de ville, en station de montagne ou également au bord des fleuves, puisque petit à petit, cette idée donc, d'architecture temporaire de loisirs est devenue le grand élément transversal, en tout cas, qui permet de recomprendre ou de re-réagir sur la forme d'aménagement du territoire, qu'il soit du littoral ou d'autres formes d'aménagement, donc sur le cadre bâti, et donc de réfléchir sur l'évolution des conditions politiques d'abord, des conditions économiques, sociales et culturelles, dans lesquelles interagissent les différents acteurs qui sont bien connus de vous, donc les promoteurs et les architectes, les usagers, les pouvoirs locaux, les collectivités. Donc tout ça, cette histoire sociale qui est une histoire au départ économique, a été petit à petit analysée par toute une série de thèses et de chercheurs. Donc la première hypothèse a consisté en fait à identifier les différents mécanismes et les stratégies mis en œuvre pendant deux siècles, donc les différents enjeux économiques dans lesquels sont nés les concepts de la station balnéaire. La deuxième hypothèse qui a demandé à être vérifiée, c'était comment donc les différents acteurs se sont influencés réciproquement, quels ont été les rapports entre les différents intervenants, entre les pionniers mythiques qui ont été les gens comme Alphonse Karr par exemple, ou éventuellement des journalistes qui sont très connus dans le début des stations balnéaires landaises, et les promoteurs. Donc c'est le jeu médiatique encore qui est encore aujourd'hui entre les moteurs de la station, les moteurs mythiques de la station, et les promoteurs financiers de la station. Ça, c'est le jeu très important. Et il y a toujours derrière des médias, des journaux, ou en tout cas des médias forts qui ont des intérêts économiques. Tous les directeurs de journaux sont passés par les stations balnéaires. Ce n'est pas pour rien. Et en tout cas, c'est pour faire de l'argent. Les banquiers, bien sûr, entre le banquier et les maîtres d'œuvre, il y a toute une série donc intéressante au niveau social de sociétés écrans, entre les sociétés de transport, les sociétés de construction, des grands hôtels, les sociétés de casinos, etc. Donc pour faire une procédure et des interventions réglementaires qui favorisent un milieu économique prospère sur ce milieu balnéaire. Et le troisième hypothèse a été donc de pouvoir mesurer les degrés d'innovation et d'invention qui ont existé dans ces milieux par rapport à l'ensemble du milieu d'architecture ou d'urbanisme ou d'histoire du paysage français. Donc comment l'innovation s'est introduite dans ces milieux. Le résultat le plus clair, en tout cas, est que si on dépouille les revues d'architecture, on a dépouillé donc une grande partie des revues d'architecture, environ donc 60% des revues d'architecture entre 1850 et 1950, et dans tous les articles, donc les modèles cités pendant un siècle sont à 35 à 40% des modèles qui sont dans le milieu balnéaire. Donc c'est pas pour rien quand même que le milieu balnéaire était un milieu d'innovation, mais aussi un milieu de modèle pour les constructeurs. Donc ça, c'est quand même important de pouvoir signaler, alors je ne dis pas aujourd'hui donc si ça continue ou pas, mais en tout cas, pendant un siècle, en tout cas, on a pu mesurer l'importance du modèle qui était la maison construite en bord de mer, qui était un peu à chaque fois un phare, pas uniquement pour l'architecte, mais pour l'ensemble de la clientèle. Si on avait construit en bord de mer, c'était signe qu'on pouvait encore construire en banlieue ou ailleurs, etc. Et donc, il y avait un marché de la construction qui passait par le bord de mer. Donc, on pourrait encore multiplier donc, les exemples donc, et les hypothèses de travail, mais voilà en tout cas trois grandes hypothèses de travail. J'arrêterai là sur ces considérations théoriques, parce que vous êtes venu d'abord pour voir des images, et donc il vaut mieux parler avec des images, c'est plus clair. Mais avant de parler avec des images, il vaut mieux donc cadrer les grandes périodes. Après, on sera libéré du problème historique. Il y a donc, en France en tout cas, cinq grandes périodes historiques importantes pour cette histoire du balnéaire sur la France. Il y a donc les premiers exemples qui sont issus directement des théories des hygiénistes et des médecins anglais, Russell et compagnie, donc dès les années 1750-60. Donc les premiers petits établissements commencent à se percevoir donc dès le début de la seconde moitié du XVIIIe siècle en France. Et donc on a une invention des établissements de bains froids qui était une variante des établissements thermaux qui permettaient donc de jouer avec tous les types donc de sources sulfureuses, etc. Et donc l'eau de mer n'était qu'une eau supplémentaire où on pouvait prendre, dans certaines conditions thérapeutiques, les eaux pour des effets curatifs. Et la traduction architecturale, on aura une traduction architecturale de cet établissement plutôt qui tire vers le néoclassique. Dans le second, très très rapide. La seconde période importante donc du balnéaire va être la construction de stations. Ça va plus être simplement un établissement de bain, un grand hôtel ou une maison pour l'empereur ou pour un roi quelconque ou pour quelqu'un en tout cas d'une cour royale. Ça va être surtout donc des constructions totales ex nihilo à côté. Souvent ou par lotissement à partir de ports ou à partir d'établissements déjà constitués pour faire des villes nouvelles selon des principes que l'on va voir. Et donc là, on va au contraire essayer d'avoir une ville certes très normée, mais aussi qui suscite l'imagination, le pittoresque, pour qu'on soit dans un autre milieu, un milieu aussi dépaysant que possible, que le milieu de la grande ville. La guerre 70 va vraiment apporter donc un grand frein à la construction de ces stations. Il faudra une dizaine d'années pour effacer la dette, et à partir des années 1880, on va là avoir une montée en flèche encore de ces nouvelles stations. Et là, on va avoir non pas quelques stations témoins, mais une production industrielle des stations balnéaires jusqu'à la guerre 14. Et avec des grands investissements capitalistes, donc en France en tout cas, où on va faire donc du 140% en 2 ans ou 3 ans sur l'espace immobilier que l'on achète et que l'on veut revendre rapidement, avec donc la construction d'une petite maison pas trop chère et à l'économie, et donc surtout pour pouvoir passer le bien et pour pouvoir surenchérir sur les biens. Donc ça va être la grande période de la Belle Époque, où on va voir fleurir en même temps, donc à la fin du 19e et jusqu'à la guerre 14, mais bien au-delà après, tous les premiers régionalismes. On en reparlera après. Entre les deux guerres, il faut distinguer deux grandes périodes. La période donc qui va avoir des difficultés à redémarrer, puisque donc ces milieux-là vont être transformés en grands hôpitaux pour les blessés officiers, mais aussi les blessés. Donc vous avez tous eu quelqu'un dans la famille qui a un grand-père ou un arrière-grand-père qui a été blessé à la Première Guerre mondiale et qui a été en convalescence dans un hôpital qui était en fait un ancien casino ou un grand hôtel, etc. Donc ça, pour remettre les grands hôtels et les casinos au goût du jour, il a fallu une dizaine d'années, et c'est que dans les périodes 26-29 que là tous les casinos vont être rénovés, que tous les grands hôtels vont être rénovés. Il va y avoir un boom, et là notamment sur la côte basque, pendant 3 ans, 4 ans, ça va être vraiment jour et nuit, des centaines d'ouvriers qui vont construire en l'espace de quelques mois des nouveaux établissements publics qui en 29-30 vont être déjà en perte de vitesse. Et donc, après la crise, il a fallu se ressaisir. Les Anglais disparaissent de la circulation, quelques aristocraties, mais qui sont remplacées notamment par les millionnaires américains, et d'autres capitaux viennent, et aussi d'autres clientèles. Au lieu d'avoir une clientèle encore un peu aristocratique et grande bourgeoise, on aura une clientèle beaucoup plus large qui va venir dans des périodes beaucoup plus vastes également. Et donc cette nouvelle clientèle va commencer en tout cas à avoir un tourisme. Enfin, on va commencer à parler du tourisme avec cette nouvelle clientèle et on va avoir une mutation importante des pratiques, notamment dans la deuxième quart du XXe siècle. Et enfin, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il va y avoir le tourisme de masse que vous avez connu et que vous avez tous pratiqué souvent, donc qui va être de pouvoir faire une industrie avec le soleil, le sable et la mer, pour singer d'autres métaphores bien connues. Et donc ceci encore jusqu'aujourd'hui, où on va avoir certes un tourisme de masse qui va attirer de grandes stations, mais aussi un tourisme qui va être de plus en plus individualiste dans les dernières décennies. La première période, en fait, va être révolutionnée par une nouvelle machine qu'on va introduire en France, c'est cette bathing machine, cette machine à l'anglaise, cette machine de bain, donc qui était la machine infernale inventée par les médecins anglais pour prendre les eaux en bord de mer. Parce qu'il fallait, donc on ne pouvait pas aller comme ça dans l'eau, surtout que les eaux de la Manche et de l'Atlantique avaient donc de grands reflux, de grandes marées, donc on ne pouvait pas s'aventurer comme ça, c'était quand même le territoire du vide, c'était le territoire où on avait peur de l'eau. Donc quelqu'un qui habitait en ville, et un aristocrate qui habitait en ville, ou à la campagne, n'allait jamais aller oser comme ça directement mettre les pieds dans l'eau. Donc il lui fallait une espèce de mise en chaîne, de machine qui lui permette une mise en scène. Donc avec ici les chevaux qui tiraient, ça doit être là, voilà, les chevaux qui tiraient ceci dans l'eau, on montait auparavant ici, on se déshabillait, on se mettait donc en maillot de bain, mais ce n'était pas le bikini, c'était la grande camisole, hein, intégrale. Et ensuite, pour certains, il y avait même une grande capote ici en cuir qui permettait donc de pouvoir être à l'abri des regards indiscrets. Et on descendait un petit escalier en bois ici pour pouvoir être pris entre les mains du maître baigneur. Et le maître baigneur vous plongeait dans l'eau une fois, deux fois, trois fois, etc. Et surtout devait provoquer la frayeur. Donc on ne savait pas trop quand est-ce qu'on allait être plongé, mais alors on buvait une bonne tasse d'eau. Et en même temps, donc, toutes les humeurs repartaient. Et c'était ce principe-là qui était le principe adopté par les médecins pour que aussi bien les maux des estomacs, la tuberculose, enfin, on soignait tout avec ça, aussi bien donc le mal que vous aviez, si vous aviez la goutte, etc. Enfin, c'était donc un remède miracle. Et c'était la machine du remède miracle, en fait. Et on devait faire 18 jours minimum, 24 jours, avec un maître baigneur qui vous plongeait dans l'eau comme ça. Donc après, vous étiez à moitié groggy, donc il fallait avoir des lieux de repos. Donc dans des établissements, il y avait des lieux de repos pour ceux qui avaient donc un peu plus d'argent. Et bien sûr, le reste du temps, vous n'avez rien à faire. Donc il fallait des lieux de correspondance, des lieux de sociabilité. Et c'est comme ça que petit à petit, les casinos se sont amenés. Mais au départ, cette machine-là est très importante pour comprendre comment on prenait les eaux. Et aussi, nous viennent du Royaume-Uni, donc une architecture extraordinaire. Il ne fallait pas, bien sûr, que ce soit l'architecture de tous les jours qu'on avait dans la grande ville. Donc cette architecture extraordinaire, c'était l'architecture exotique donc de l'Extrême-Orient, avec des toits à bulbes qu'on n'avait pas habituellement, et à l'intérieur ici, un décor à la chinoise, ici à Brighton. Et donc on va, dans certains lieux, à Dieppe ou à La Rochelle, essayer de retrouver des décors un peu exotiques comme cela. Voilà donc, après plusieurs établissements en bois à Dieppe, la construction néoclassique de Châtelain en 1821, qui est une construction très classique, très école des beaux-arts, en trois parties, avec un avant-corps central pour les salles de correspondance, les deux pavillons latéraux pour les hommes et pour les femmes, toujours séparation des sexes, j'ai oublié aussi de le dire. D'ailleurs, on le voit bien, le peintre ici n'a fait baigner que les hommes. Derrière, donc il y avait l'escalier qui est là, les femmes devaient être là, mais vous voyez, il y en a quelques-unes sur le bord, mais il n'y a rien du côté des femmes. Donc il y a toujours donc une pudeur importante, d'où ces cabines de bain. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on prenait le bain sous les regards voilés, sous des regards, à l'abri des regards, mais toujours sous les regards. C'est-à-dire qu'on pouvait se mettre à l'abri, mais il y avait toujours des regards. Et le regard était provoqué par les promenades qui étaient ici sur la digue. Donc il y avait toute une armée de spectateurs qui vous regardaient. Et il y avait toujours des regards en chaîne. C'est-à-dire que c'était une mise en scène donc importante, et ça a toujours été une mise en scène pendant plus d'un siècle. C'est-à-dire que vous étiez toujours dans une atmosphère théâtrale, il y avait toujours des gens pour vous regarder et vous étiez là pour être vu. Aussi bien pour votre bain, même si vous étiez caché, mais vous étiez caché parce qu'il y avait un regard. Et voilà d'autres ici plus près, j'ai pris l'exemple donc de La Rochelle, les bains Marie-Thérèse, toujours à peu près à la même époque, avec le même système. Mais vous voyez, des galeries toujours pour se promener entre le pavillon des hommes et le pavillon des femmes, et rentrer dans la salle de correspondance qui parfois était transformée en salle de bal, ensuite des cabines de bain et toujours les fameuses toiles qui séparaient les sexes, ici, les toiles ici bien tendues, et ici, donc les petites, donc toujours sur les éléments indiques. Donc on va avoir des éléments en terrasse, comme ça, qui vont vous permettre de prendre le bain sous les regards. Voilà le même élément au Havre, beaucoup plus la structurée. C'est-à-dire que l'établissement de bain était ici. Petit à petit, on a construit un grand hôtel derrière, mais c'était un peu une petite cité fermée. Et vous voyez qu'au-dessus également, il y avait une digue, mais au-dessus du bâtiment, il y avait un système d'escaliers et de terrasses et de belvédères pour voir du haut toujours les bains. La séparation ici et les femmes d'un côté avec les grands baldaquins de repos de part et d'autre, les cabines de bain ici fixes et la salle de restaurant ici avec la salle de musique au centre. La même chose à Arcachon dans les années 1820-1830, et surtout ce qui est intéressant à Arcachon, c'est qu'on voit apparaître une autre construction accolée donc à l'établissement de bain qui va être de plus en plus donc utilisé, c'est le casino. Et ici, donc, ça va être un lieu, en tout cas, qui va servir pour le ou les jeux. Jeux interdits ou jeux, en tout cas, publics, qui va être accolé, mais séparé de l'établissement de bain, qui va être donc un établissement où règne la bienséance. L'intérêt aussi de l'établissement donc d'Arcachon, c'est toujours donc la double galerie, la galerie ici en rez-de-chaussée et la galerie supérieure pour séparer ici et une partie, en tout cas les guides nous disent que la partie supérieure était consacrée aussi à des chambres de location, donc des hôtels. De l'autre côté, puisqu'on a la chance donc d'avoir la côte atlantique et la Manche, mais aussi la Méditerranée, c'était pas du tout pour l'eau qu'on venait en Méditerranée en 1760. C'était bien sûr pour le bon air, pour respirer le bon air. Donc on a une autre manière d'être en bord de mer, donc sur la Méditerranée. C'était d'une part pas du tout dans la même saison, c'était surtout en saison d'hiver, et pour prendre le bon air. Tandis qu'à l'ouest, c'était la saison d'été et pour prendre les eaux. Donc on a deux façons de pratiquer le bord de mer au début, qui était totalement différente et qui incluait bien sûr des architectures et un urbanisme différent. Et cet urbanisme différent était d'autant plus accentué, d'autant plus différent que les, anglais venaient avec leurs architectes, donc avec leur manière de construire, néo-palladienne, inspiration italienne, etc. Tandis que nous, pas d'inspiration du tout italienne à Arcachon ou bien à Dieppe. C'était au contraire très néoclassique souvent, et il n'y avait pas d'inspiration comme ici, avec les belvédères, etc. Donc on a là deux manières différentes, et surtout, les emplacements étaient différents. C'est-à-dire, comme c'était pour prendre le bon air, on ne prend pas le bon air directement sous le nez de l'eau. On prend le bon air légèrement sous, à mi-côte, donc à la moitié de la colline, où il y a toujours donc, un renouvellement de l'air. Donc là aussi, les lieux vont être utilisés différemment. Voilà aussi la promenade, qui était au départ une petite promenade de 4 mètres en 1800, dans les années 1820, et qui va s'agrandir. Là, c'est l'agrandissement des années 1860. Et là, sur la photo, personne ne l'avait vu jusqu'à présent, mais on a des petites cabines et on a des rails. C'est-à-dire que les cabines de bain, c'est comme à Saint-Sébastien, pas loin d'ici, les cabines royales que l'on descend. Donc il y avait des treuils et des cabestans qui permettaient pour les personnes donc, d'un certain rang de pouvoir rentrer dans la cabine ici et donc de pouvoir descendre dans l'eau ici avec des cabines fermées. Et donc là, c'est tout à fait exceptionnel. Il n'y a encore personne qui a travaillé sur ces première cabine là en Méditerranée, donc il y a encore, pour ceux qui veulent faire des travaux dans ce domaine-là, de belles recherches à faire. À partir des années 50, on va commencer à construire des stations. Ici, c'est un ingénieur, Numa Sabatier, un grand inconnu à mon avis, il a travaillé surtout à Fécamp, il était surtout un ingénieur qui avait aussi sa scierie, et qui travaillait beaucoup avec des chalets en bois. Et il a imaginé, le long donc, de la digue qu'il a fait construire, toute une série d'établissements de bains et de grands hôtels, avec des centres de thalassothérapie, et enfin, de ce qu'on va appeler après la thalassothérapie, des établissements très sophistiqués ici de bains, avec donc de l'eau chaude pour les bains de mer. Et on voit apparaître des petites villas particulières, un petit village ici, des petits lotissements qui commencent à apparaître. Ces lotissements-là vont être davantage mis en musique, on peut dire, par les promoteurs de la côte normande, comme ici à Houlgate, où on va avoir, avec un Cardo et un Decumanus, petit à petit, toute une série d'établissements, donc le Grand Hôtel, les villas qui vont s'aligner ici, et le grand hôtel ici, les villas, les établissements de bain, derrière la chapelle et derrière aussi une espèce de bois de Boulogne, donc un grand parc public pour pouvoir faire des excursions. C'est le principe même. Donc le casino est central avec en regard l'établissement de bain et les cabines de bain, et en arrière le grand hôtel, les villas et le tout dans un grand parc. Ça, c'est le principe même dans les années 50-60. Du concept de la station type, en tout cas française, qui va se reproduire à Cabourg, mais au lieu de l'avoir avec un ordonnancement d'urbanisme très au cardo et très orthonormé, on va avoir au contraire des essais ici avec un plan radioconcentrique qui va se mettre en place autour donc d'un casino et ensuite d'un grand hôtel, casino d'abord et d'un grand hôtel, qui vont ensuite s'assembler ici, avec le casino sur le côté et le grand hôtel, et ça va être le casino qui est encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le grand hôtel de Proust, qui a abrité Proust. Donc on a là un urbanisme qui commence à s'affirmer en même temps que la construction de la ville. Voilà ce que donne la ville aujourd'hui, d'après le plan de 55, mais avec une vue aérienne de 2004. Des villes nouvelles aussi, comme à Deauville, où là, à côté de Trouville, à côté du village de pêcheurs, on va construire dans les marécages, Morny donc, va faire acheter par ses amis les marécages pour vraiment une bouchée de pain. On va y mettre d'abord, on va agrandir le port pour qu'on puisse venir du Havre par bateau. Ensuite, très rapidement, Morny va être aussi actionnaire des chemins de fer et on va y amener le chemin de fer ici. Et à côté, donc, ici, de ces moyens de communication, on va développer une ville avec des voies parallèles à la digue, autour d'un casino et d'un grand hôtel et des boutiques qui sont ici, avec de part et d'autre l'église et le temple, et surtout tous les lieux de loisirs. On voit l'hippodrome déjà apparaître, et les tennis vont apparaître quelques dizaines d'années plus tard. Donc en même temps que la partie des établissements donc, liés à l'eau, on aura toutes les séries de sports de plein air possibles. Arcachon est très intéressant, non pas parce qu'il est proche d'ici, mais parce que pour la première fois, on essaie d'unir une station d'été et une station d'hiver. Donc la station d'été existait déjà donc, depuis la fin du 18e, mais surtout avec des établissements en bois et ensuite en dur à partir des années 1820-1830. Et derrière, dans les dunes plantées par, sous la direction de Brémontier, etc., on va acheter les bâtiments, enfin les dunes vont être achetées par la Société de chemin de fer de la Compagnie du Midi, c'est-à-dire par les Pereire, qui vont rentabiliser et demander à leur ingénieur qui a fait le pont de Bordeaux, etc., le même Regnault, va faire des chalets types, des maisons types, en même temps un casino mauresque et en même temps un buffet de la gare chinois tout à fait particulier. Donc vous voyez, ville d'été ici et ville d'hiver avec les stries qui sont ici, avec le chalet de Pereire qui est là, et toute la ville d'hiver qui se développe derrière selon un plan paysager. Donc là, pour avoir une ville qui déjà, dès les années 1860, est là pour durer toute l'année. Donc le principe de rentabilité était clair, puisque déjà, les frères Pereire ont revendu 3 ans après tous les chalets. La société, en tout cas, qu'il avait créée, a revendu à l'extérieur et à une partie d'une autre société d'actionnaires où il était majoritaire, mais pour pouvoir faire du bénéfice. Donc on voit bien que c'est une des sociétés où la spéculation immobilière et le seuil de rentabilité doivent être faits en peu de temps. Les nouvelles villes vont être aussi... on voit que donc, comme financièrement ça rapporte, les gens qui n'ont pas d'argent vont demander ces villes. Et le prince Charles de Monaco, donc le Carlo en question, qui a vu ses caisses totalement vides, va faire venir un casinotier qui avait fait beaucoup d'argent à Bade et ailleurs, et va demander donc à Blanc de venir lui créer une ville nouvelle avec un casino, et pour renflouer la caisse de ce qu'on va appeler aujourd'hui de la principauté. Et ça va être le principe de... Donc sur donc les Spéluges, qui était vraiment une falaise, un plateau au-dessus d'une falaise totalement nue, on va commencer à construire un casino, un petit établissement ici, le Café de Paris, et l'hôtel de Paris qui va être là. Mais pour faire venir les foules, c'est difficile, parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Camille Blanc, qui connaît bien la société, se dit « Mais je fais venir le PDG, on dirait aujourd'hui, du PLM, du Paris-Lyon-Marseille, et je lui demande donc de prolonger la ligne de Marseille à Monaco avec les bénéfices de mon casino. » Donc pour les PLM, c'est gratuit. Et surtout, ils se payent en achetant les terrains et en rentabilisant les terrains entre Marseille, Cannes, Nice et Monaco. Donc c'est c'est pour tout le monde gagnant. Aussi bien pour le roi donc, de la principauté, pour Camille Blanc, pour donc, la société de chemin de fer et pour les sociétés annexes. Et derrière, pour la Société Générale qui finance. Donc vous voyez, les banques suscitent les moyens de locomotion qui elles-mêmes mettent en route, je ne dis pas que c'est les banques qui créent le casino et qui créent l'établissement, mais elles démultiplient la force économique de ce moteur qui était un moteur qui, pendant tout le 19e et le 20e siècle, va être très rentable au niveau économique. Alors, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas, on est quand même, je crois, à Arc en Rêve, donc je vais arrêter à parler d'économie et voir un peu d'architecture. Mais c'est un formidable lieu, un kaléidoscope de toutes les architectures, parce qu'il fallait un peu, de même qu'on était un peu choqués dans le bain, qu'on prenait à la lame froid, de même on était choqués par toutes les architectures qu'on voyait. Donc là, ce kaléidoscope, c'était de l'architecture connue, donc néoclassique, ici, c'était de l'architecture néo-Louis XIII, c'était de l'architecture également néo-gothique qui venait directement des Anglais, ici sur la plage de Deauville, sur le front de mer de Deauville. C'était de l'architecture aussi néo-classique, mais qui venait beaucoup plus du néo-paladien italien, etc. Donc on avait un peu de tout. Et donc c'était dans ce foisonnement d'architecture que vivait pendant quelque temps donc l'écuriste, malade bien sûr. Et voilà les chalets à la Suisse qui n'avaient à la Suisse que de nom, mais donc le chalet était en fait la forme la plus parfaite du pittoresque. Et c'est donc en tant que pittoresque que l'ingénieur donc de la compagnie chemin de fer du Midi et également les architectes ont construit les chalets d'Arcachon. Donc il y avait le plan A, le plan B, le plan C, et c'était déjà de l'architecture qui était industrielle. Et voilà tout à fait ce pittoresque qui se dégage, c'est-à-dire le néo-gothique, le néo-exotique néo-persan, c'était un peu Ispahan qui était là, et les premières maisons régionales, ici la première maison régionale néo-normande que l'on voit apparaître dès les années 1860. Alors, je ne vais surtout pas faire un cours de régionalisme parce que mon maître est devant moi, donc j'arrête tout de suite là-dessus. Mais en tout cas, c'est un formidable laboratoire, bien sûr, ces milieux-là, pour tout le régionalisme. Ici, vous avez un des premiers éléments, mais de 1860 à 1960, ça va être le festival des régionalismes français. Mais entre-temps, il y a bien sûr des notes d'exotisme. Je vous ai parlé de l'exotisme d'Arcachon, donc voilà le buffet de la gare. C'est beaucoup plus exotique que le buffet de la gare actuel de Bordeaux, mais en tout cas, c'est très efficace. Et le décor était fait par les personnes qui ont fait les décors du théâtre à Bordeaux. Donc Salaise, etc. Tous les décorateurs bordelais sont appelés là pour faire un décor à la mauresque. Alors, bien sûr, jamais été fait le voyage, mais il y avait suffisamment de modèles, de répertoires décoratifs pour faire soit du chinois ici, soit du mauresque avec un kiosque chinois de l'autre côté. L'ingénieur aussi, on a vu, donc Regnault n'était jamais allé au-delà de la Méditerranée, mais on construisait à la mode mauresque et à la mode chinoise. Voilà les établissements, les quelques grands établissements, l'établissement de Bainchaud. Alors vous voyez que c'était vraiment encore dans les années 1820, mais avec une photo des années de Terpereau de 1863, quand le Napoléon III vient, le grand photographe Terpereau donc d'Arcachon, fait toute une série de photos à la chambre. Et là, on a ces bains qui sont encore tout à fait des bains thermaux. Vous voyez, bains sulfureux, bains minéraux, bains en cabine, etc. Donc c'était des bains de mer chauds. Et à l'extérieur, on vendait des costumes pour les bains de mer froids que l'on prenait à l'extérieur. Mais c'était encore très très thermal tout ça, très curatif et très thermal. Hein. Et la grande mode en tout cas de prendre ces bains à la lame froid ne va venir que dans les années 70-1914. Avant, on était encore très établissement de bains. Pour ceux qui côtoyaient en tout cas le bord de mer. Donc voilà l'établissement de bain type. On aura la même chose, voilà l'établissement de bain de Biarritz, c'est pareil, simplement avec un décor quand même fait 30 ans après. Hein, 30 ans, donc le premier était en bois, mais aussi à Port-Vieux, les premiers établissements de bain étaient aussi en bois, Biarritz. Donc là, la présence de Napoléon III et d'Eugénie de Montijot fait qu'on construit en dur, juste à côté de la Villa Eugénie, à Biarritz, mais dans un décor néo-mauresque qui veut rappeler un peu l'Alhambra et ailleurs, et un décor aussi très exotique qui était souligné par une polychromie très forte. Des bleus, des blancs et des rouges ici, bon, que ne rend pas la photo, parce qu'à l'époque, dans les années 60, on n'avait pas encore la photo couleur, mais également, et les colonnettes étaient également peintes en bleu, et avec des chapiteaux également très très colorés. Donc il faut s'imaginer ces décors exotiques et colorés. Troisième période, puisqu'il faut avancer un peu, hein, ce qui serait intéressant, c'est plutôt la discussion, donc je vais avancer rapidement. Troisième époque, donc au niveau de la chronologie, après la guerre de 70, on va vraiment, les prototypes des premières villes que vous avez vues, villes d'hiver d'Arcachon, Dieppe, etc., Deauville, vont être démultipliés. Et chaque ville engoncée dans ses fortifications va vouloir construire sa petite station à côté de la ville. Et donc on aura des petites villes nouvelles qui vont se construire en arrière ou à côté. Et donc là, derrière les fortifications de Calais, on va, tout ça appartenait au domaine maritime, donc ça, on achetait ça une bouchée de pain. On prend un pavillon d'exposition universelle de Paris, qu'on rachète là aussi pas très cher, et qu'on va transformer en casino. Le bénéfice du casino va servir en grande partie à établir une magnifique digue propre à la construction de villas. Donc on va s'affranchir donc des marais, et derrière, on va pouvoir lotir le terrain qu'on avait acheté une bouchée de pain. Donc voilà la machine économique. On y va en tramway, d'abord en calèche et ensuite en tramway. Ici, vers 1900, en tout cas, c'est déjà le tramway qui vient du centre-ville. Donc du train du centre de Calais, on va à l'extérieur de la ville en tramway. On va au casino et les bénéfices du casino permettent d'être réinvestis ici dans la construction de digues et ensuite de mise en valeur des villas, puisque les villas, le terrain ne coûtait pas très cher, la construction à l'économie, mais après, la revente était intéressante. Donc voilà un peu comment on trouve, donc, à proximité donc, de Paris et à proximité de la plage, toute une série ici d'établissements qui permettent de mettre en valeur, et voyez, donc course vélocipédique, service de tramway desservant la place. La plage. Et aussi, vers 1900, apparaît l'automobile à travers les échasses des Landais. Parce que donc, le fameux, je vous ai parlé de la promotion de ces stations, la promotion était faite par des journalistes, et un des journalistes, Maurice Martin, avait amené toute l'intelligentsia, mais également toutes les gens qui faisaient l'opinion de l'Aquitaine à l'époque. Et donc on leur avait fait une grande balade à cheval et en automobile, mais en automobile on ne pouvait pas passer les automobiles dans les Landes, c'est-à-dire qu'on était obligé de faire le grand détour. Et donc ce journaliste a demandé donc aux premiers ingénieurs des ponts et chaussées de faire des routes macadamisées dans les Landes. C'était les premiers essais de macadam donc dans la région qui étaient faits pour unir les petites stations entre elles. Parce que l'intérêt, c'était bien sûr de ne pas venir directement en train de Bordeaux, d'aller à Bayonne, de Bayonne après, d'aller, etc. et autres, c'était trop loin. Donc l'intérêt, c'était de trouver des routes qui longeaient donc, le littoral. Et ces routes qui longeaient le littoral, y avait trop de sable. Donc on ne pouvait pas faire marcher les voitures. Donc le macadam était là, la solution idéale pour pouvoir faire rouler les voitures avec pas trop d'investissement. Donc tout ça est raconté dans ce magnifique livre que j'espère toutes les bibliothèques ici d'Aquitaine ont, sur la Côte d'Argent, et c'est lui aussi, je crois, qui invente le mot de la Côte d'Argent, puisque bien sûr, on avait inventé quelques années avant la Côte d'Azur, donc là, l'écume donc, de l'Atlantique, de loin, faisait penser à l'argent, et donc il fallait, voyez bien, la mise en tourisme. Déjà dès le début de ça, donc il y avait la mise économique, mais après, avec les promoteurs, il fallait rapidement une mise en tourisme pour ces nouvelles villes. Et aussi, ce qu'on oublie aussi, c'est que ces premières stations étaient vraiment environnées de bicyclettes. Ce n'est pas maintenant que la bicyclette apparaît. Et vous voyez, donc ici à Mers-les-Bains, un atelier de réparation de bicyclettes, en même temps, en dessous que la pension de famille. Et donc, on allait en train jusqu'en la station, et après dans la station, on faisait des excursions en bicyclette. Et donc le moyen de locomotion, c'était le tramway et la bicyclette, dans les années 1900. Et la bicyclette un peu aménagé avec un petit moteur permettait de monter les falaises. Et ici, la publicité fait bien voir que les premières motocyclettes, derrière, c'était bien la publicité balnéaire qui faisait vendre aussi. Donc, d'un côté, il fallait une publicité pour aller dans les villes balnéaires, mais la ville balnéaire était un moteur aussi pour vendre, pour l'économie de l'ensemble de la ville. Donc, c'est ce qui est intéressant donc, de voir. Et là, les premières voiturettes, aussi les premières voitures, où le voyageur, la femme, est avant donc, le chauffeur, et les premiers essais, donc vous voyez la bicyclette et les premières voitures le long aussi du littoral. Et donc à Saint-Étienne, avec les manufactures, etc., on savait bien vendre les images de l'industrie, la bicyclette et l'automobile, avec le milieu méditerranéen. Et d'ailleurs, les colonies ensuite de Saint-Étienne vont aller en Méditerranée. Enfin, il y a un grand rapport entre Saint-Étienne et la Méditerranée. Et aussi l'essor de chemins de fer, je vous ai parlé des chemins de fer, mais l'essor des petites lignes locales ou des grandes lignes internationales vont bouleverser également la transformation et l'économie des petites stations. Exemple, aussi, c'est tous les moyens de locomotion industriels qui vont être utilisés, l'ascenseur, qui va permettre avec le funiculaire d'aller en bas et en haut des falaises, donc de dépasser le cadre habituel des plages plates. Et quand il y avait des obstacles ici, donc dans le milieu très déchiqueté des côtes bretonnes, eh bien il y avait des petits ingénieurs malins qui, avec des rails et un petit moteur ici qui était ici, qui tiraient des chaînes qui étaient là. Et on allait ici, une espèce de pont roulant transbordeur, de part et d'autre, donc de Saint-Malo à Paramé, avec ces petits éléments-là. Donc, bien sûr, quand il y avait un raz-de-marée et un tsunami, ça ne devait pas résister beaucoup. Mais en tout cas, ça permettait de faire des petites navettes partout. Et on a multiplié ces petites navettes en bateaux et par tous les moyens de locomotion possibles. Les Anglais nous ont beaucoup aidés, puisque pour la métallurgie, c'était vraiment donc le grand lieu de pouvoir, avec les locomotives, les gares, de produire et de mettre en valeur le savoir métallurgique anglais. Et la jetée ici, promenade des Anglais à Trouville, était faite par des ingénieurs anglais. Également les brevets pour les serres d'hiver étaient des brevets monté par les ingénieurs anglais, et aussi le casino de la jetée de promenade de Nice est aussi une construction d'ingénieurs anglais. Donc ces modes à l'anglaise étaient aussi des modes d'acclimatation pour les plantes. Les Anglais, notamment dans la période 1860-70 jusque 1920, utilisaient la Méditerranée pour acclimater les plantes qu'ils prenaient en Asie, en Inde notamment, et avant de les amener directement sur les bords de mer froids anglais, passer plusieurs années d'acclimatation dans les jardins à Cannes, à Hyères ou ailleurs, et ensuite quand les plantes étaient acclimatées, ces plantes allaient ensuite en Angleterre. On a le cas de la folie des Anglais, de l'anglais à Nice, donc colonel de l'armée des Indes qui construit en même temps que son château en Angleterre, qui construit une villa au bord de Nice avec un immense jardin. Il acclimatait ces plantes là et ensuite les plantes allaient en Angleterre. Donc il y avait un trafic et surtout il y a une transformation des paysages avec toutes ces acclimatations, ces cactus qui viennent des Amériques, ces palmiers qui viennent de l'Afrique, etc. On va avoir un changement important de tout le paysage. Non seulement des villes nouvelles, mais des paysages nouveaux vont apparaître en bord de mer. Alors, il y a des paysages aussi totalement fous que font les grands architectes, comme aujourd'hui, on demandait à un Jean Nouvel de signer des villes nouvelles. Là, on a demandé à un Charles Garnier, à un Cutler, de signer une ville nouvelle bâti surtout par des promoteurs banquiers anglais à côté du Touquet. Ce projet non réalisé fait par une vue perspective à l'anglaise qui montre le pier ici et le casino qui est là, mais une ville paysagère avec en arrière
tous les lieux pour le sport, l'hippodrome, le golf, etc. Et le plan est signé, étonnamment, de Charles Garnier. On avait besoin de la signature d'un grand architecte pour avoir beaucoup d'argent pour ensuite investir cette ville nouvelle. Et la ville, donc Whiteley, qui lui a demandé donc cela, va construire ensuite le Touquet, s'inspirant de ça, et va construire aussi ensuite Ardelot à côté et Huimereux. Voilà aussi des nouveaux plans dans les années 1900-1905. Il y a un débordement vraiment urbanistique important. Toujours le paysage ici de parc paysager en arrière et un plan radioconcentrique comme vous avez vu à Cabourg. Mais ce plan-là a été dessiné en 1905 et n'a été réalisé vraiment qu'à partir de 1925. Parce que souvent, pour acquérir les terrains, c'est très très long, etc. Et pour l'aménagement et surtout la promotion pour que les gens puissent acheter, c'est donc une grande affaire de promotion immobilière. On va voir un peu comment se fait la promotion immobilière. Le tréport terrasse qu'on avait vu tout à l'heure avec les funiculaires, voilà au tréport donc la plage avec le casino, et on va pouvoir multiplier par deux ici sur la terrasse au-dessus de la falaise. Ici donc le tréport est en bas, et donc avec un funiculaire on va aller jusqu'ici et construire tout à fait une ville magnifique verra le jour. Ici ce sont les bâtiments qui sont construits en 1911 et avec dans un jardin signé par Duchesne et des grands hôtels signés de Sauvage. Donc on essaye, comme il n'y a pas beaucoup de plages de sable fin, de pouvoir conquérir les falaises, soit en faisant le long des falaises des grandes terrasses ici avec des lacets qui permettent donc d'avoir des espaces étagés qui permettent de pouvoir construire des bâtiments, soit on va employer des armées de terrassiers ici qui vont casser la falaise et mettre un établissement de bain ici en dessous et donc de pouvoir acquérir des terrains à bas prix pour pouvoir établir une petite, ce qu'on appelle un petit trou pas cher, c'est-à-dire une petite station balnéaire pour quelques privilégiés qui vont pouvoir bénéficier du grand hôtel, du petit casino ici et d'établissement de bain. Voilà le funiculaire et la station nouvelle du tréport terrasse ici. Et surtout, la grande image, c'est la féminité et le golf. Ce sont les femmes qui conduisent les voitures dans toutes les affiches jusqu'en 1920, etc., bien sûr, et le golf ou le tennis joué par les femmes. Ça, c'est un modèle récurrent avec en arrière-plan le bord de mer. Je vous ai dit que les sociétés de communication et de transport qui étaient là avaient des filiales. Donc les filiales ont fait toute une série de sociétés fermières de construction de grands palaces. Ici, c'est le cas, c'est-à-dire c'est la compagnie des wagons-lits qui construit toute une série de grands palaces le long de la Méditerranée. C'est très pompeux, il n'y a peut-être pas beaucoup d'innovation dans l'architecture, mais en tout cas, c'est une architecture qui répond totalement aux règles de confort et d'économie des actionnaires. C'était le plus important. Les petites maisons également, alors on pouvait vivre soit dans des grands palaces, soit également dans des villas à louer. Le propriétaire des villas, pendant la belle saison, vivait ici, donc avait sa petite entrée en sous-sol et louait le reste. Voilà, donc la division, et quelquefois même le vertical était encore redivisé en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous louiez le rez-de-chaussée, mais l'étage était occupé par quelqu'un d'autre, etc. Donc il y avait des systèmes de location soit à l'horizontale, soit à la verticale, très très poussés. On a le cas à Mers-les-Bains, de villa jumelle, de villa double, de villa triple, de villa quintuple, donc où le propriétaire, les différents membres des familles, etc., avaient des parts dans la construction et également louaient le reste. Les grands casinos, ici celui de Royan, malheureusement disparu, qui était le plus grand casino d'Europe pendant plusieurs décennies, c'était vraiment quelque chose de colossal. Et donc ça drainait, on voit bien, certes il y avait eu l'arrivée du train, Mais le casino a permis en tout cas de pouvoir garder toute une population, non seulement parisienne, mais surtout une population de proximité qui venait de tous les départements alentours pendant plus d'un mois. Parallèlement à ça, le parc d'hiver, puisqu'il y avait toujours un grand complexe par rapport à Arcachon, donc le parc d'hiver a été construit concomitamment à la construction de ce casino. Le casino de l'Acheté, dont je vous ai parlé, à Nice, entièrement en fer, et qui rappelle de très loin, bien sûr, la coupole de Sainte-Sophie, etc., mais toujours l'aspect un peu exotique qui existe. Je passerai aussi sur tout l'aspect curatif qui a continué. Donc il y avait non seulement le bain à la lave, mais il y avait le bon air qu'on pouvait respirer, notamment pour la tuberculose. Et ici, une ville sanatorium, Zuidcote, construit en 1908 pour tous les tuberculeux enfants et adultes du nord de la France, qui était une ville qui pouvait abriter plusieurs milliers de malades, avec au centre donc les services. Et vous voyez que c'était très, très élaboré. Donc, les malades ici étaient en bord de mer. On a là des photographies qui nous montrent des centaines de lits ici que l'on tirait avec des malades qui étaient qui avaient la polio ou qui avaient donc des maladies graves qui étaient là. Et donc, ils vivaient dans ces espèces de casernes ici en bord de mer. La construction, les principes de construction de lotissement. On était actionnaire du chemin de fer, comme je vous ai dit. L'actionnaire ici, Encar, du petit chemin de fer qui allait donc de Saint-Nazaire au Croisic, a acheté des dunes, les dunes de la Baule, avec BO, accent circonflexe LE, et a loti ici le premier îlot. Et donc la petite maison était en front de mer et devant l'établissement de bains, avec les petites cabines individuelles. Donc voilà comment petit à petit, on a loti les dunes, on a aplani les dunes boisées, et que l'on a petit à petit fait de grands lotissements, que l'on se revendait comme ça très rapidement. Alors comment, dans le lotissement, on choisissait son lot et comment on choisissait son architecture? Très simple. L'architecte donc de la banlieue de Paris, ici bourgeois, éditait de grands catalogues de modèles. Ici, c'est un catalogue d'une centaine de planches. Il demandait donc à l'administration, donc il était en cheville en tout cas, avec un promoteur qui achetait en Picardie, qui a acheté le Bois de Six, qui était près de Holt-Onival, qui était une petite station, même pas, une petite plage, qui est ensuite devenue une station. On a construit un chalet de l'administration pour faire venir le client, que l'on faisait asseoir de façon très pompeuse dans le magnifique fauteuil que vous avez là, le fauteuil circulaire. D'un côté, il pouvait voir la maquette du site, et il achetait donc son lot sur la maquette du site, et de l'autre, il se retournait, et il avait les modèles qui étaient ici. Les modèles qui étaient là étaient épinglés derrière lui. Donc il choisissait la maison à 30 000 francs, la maison à 40 000, la maison à 50 000, suivant son pouvoir d'achat. S'il voulait de petites améliorations, ou surtout s'il voulait être en contact avec son banquier parce qu'il n'était pas sûr d'avoir l'argent nécessaire, qu'à cela ne tienne, l'administration lui avait déjà calculé qu'on avait ici une cabine téléphonique et on était en relation directe avec Poissy, où habitait l'architecte, ou avec la banque qui était à Paris. Donc on pouvait aller signer directement à la fin de la journée, on avait son plan, on avait acquis sa parcelle de terrain, on savait combien ça allait, on signait et on revenait, et voilà ce que faisait ce que le, ensuite on avait. Donc le propriétaire s'était acheté ça, et pour le prix, il a trouvé que c'était sans doute pas cher, ou il avait les moyens, et il s'est construit sur le même plan deux autres bâtiments. Alors, donc c'était des bâtiments à 45 000. Et donc pour les, mais c'est le même plan. C'est-à-dire que vous avez là, toujours en rez-de-chaussée, vous voyez, la grande baie vitrée, les deux baies au premier étage, et sur l'étage de comble également, les deux lucarnes. Alors bien sûr, le toit pouvait être plus ou moins important, etc., mais dans l'ensemble, c'était le même prix. Pour l'architecte et l'entrepreneur, c'était le même prix. Et vous aviez le bâtiment pour le propriétaire, et deux villas ensuite à louer. C'est-à-dire que Le bénéfice de ces villas lui permettait, en l'espace de 7 ans, de rentabiliser l'ensemble de son opération. Mais c'est le principe actuel, hein, on n'a rien inventé, mais c'est le principe, en tout cas, de pouvoir très rapidement se démultiplier. Et donc, voilà un peu comment, donc, dans les années 1900, on avait établi l'ensemble du système de l'intérieur du balnéaire. Alors, les derniers feux des années folles, on en a parlé un peu, et le renouvellement des pratiques, notamment avec l'automobile. On ne peut pas ne pas parler d'Osgore, qui est en fait, non pas, on peut peut-être parler de ville nouvelle, parce qu'il y a des projets de ville nouvelle sur Osgore, donc des projets non réalisés, mais il y a surtout ce même principe de vente par lotissement. Ici, donc, le travail de Claude, qui nous a montré donc que les premiers lotissements des années 23, 25, 27, petit à petit, ont lotissé, et c'était le même principe que je vous ai fait voir donc quelques années plus tôt. Donc quelqu'un achetait donc une grande parcelle, le divisait en petits lots, et on essayait de revendre, avec ou sans le bâtiment, tous ces éléments-là au fur et à mesure. Donc c'était souvent une architecture de lotissement qui existait, et on a créé, entre les deux guerres, beaucoup de petites villes nouvelles. Ici, donc, petite ville, grande ville dans le cas d'Osgore, mais petite ville à Donville-les-Bains, une petite station donc, de la nouvelle génération de l'entre-deux-guerres, qui montre que même juste en bas des falaises, on construit ici les cabines de bain, et de part et d'autre, deux petits hôtels, et la station est créée. Et après, il fallait monter le long de la Valeuse pour avoir les petites villas qui étaient au-dessus. Mais sans vraiment beaucoup d'investissement, on pouvait créer des stations nouvelles. Et aussi, il y a eu un grand renouvellement. Ce qu'on oublie, c'est qu'entre les deux guerres, il y a eu beaucoup de renouvellement. On parle toujours de nouveautés, mais on parle rarement d'agrandissement. Ces stations-là vivaient avec une architecture éphémère pendant peu de temps. Donc il fallait les rénover rapidement. Et quand on avait des périodes où on avait de l'argent, entre les deux guerres, notamment dans les années 20-30, on a rénové tout Deauville. Deauville est certes une station où l'urbanisme est Second Empire, mais quand vous voyez les infrastructures, une grande partie a été renouvelée entre les deux guerres. Ici, on a refait les bains de Hada, on a tout le lait de mer ici qui a été abandonné dans les années 70, on l'a construit, on a construit des tennis, des grands jardins. On a également derrière construit donc un yacht club. On a construit bien sûr un aéroport, des nouveaux hôtels pour des nouveaux golfs. Et donc on a petit à petit changé les images très archaïques des premières stations. Et surtout, je vous ai parlé de renouvellement ou de la construction de tous les casinos. Ici, avec l'argent donc, des nouveaux millionnaires américains, toute la côte méditerranéenne, qui étaient des établissements qui fonctionnaient toute l'année, ont eu un grand renouveau grâce à la construction des casinos. Le palais de la Méditerranée, date très sulfureux donc, dans les années 70-90, est né en tout cas de cette action-là de construction de casinos le long de la promenade des Anglais, puisqu'avant les casinos étaient beaucoup plus côté vieille ville. Et on a là encore la façade protégée de ce casino, le vitrail a disparu, mais donc on peut encore apercevoir la silhouette de ce palais, de même que l'Olé a renouvelé les casinos antérieurs dans les années 29, qui eux-mêmes, lors des grandes années, donc des années 90, où il y avait encore de l'argent dans les casinos, et où monsieur Barrière donc, pouvait réinvestir une partie de l'argent avec la ville de Biarritz et l'argent aussi du ministère de la Culture, on a renouvelé avec Lombard l'ensemble de l'infrastructure du casino ici donc de Biarritz. L'élément, ce qu'on passe souvent sous silence, c'est que très souvent, il n'y avait pas uniquement qu'un lieu de distraction, mais c'était un lieu curatif et un lieu également pour les préventoriums, les sanatoriums et les colonies de vacances. Donc là aussi, peut-être certains d'entre vous ont connu aussi ces temps-là, peut-être plus en tout cas à s'étendre avec des soins intensifs donnés le long de la plage, sur ces cures d'air marin, mais la colonie de vacances, c'était le préventif de la cure marine, bien sûr. Une architecture hyper régionaliste entre les deux guerres, et là, dans cet hyper régionalisme, j'ai surtout pas voulu mettre une architecture néo-basque, ça aurait été trop simple, donc j'ai pris une architecture méditerranéenne, ou dite méditerranéenne en tout cas, par les architectes du nord de la côte atlantique, mais c'était une architecture très éclectique, c'est-à-dire que l'extérieur était dit méditerranéen à cause de l'enduit méridional dit ocre, à cause également ici des éléments qui étaient ici ce qu'ils appelaient un belvédère, mais qui n'est en fait qu'un élément de galerie très bien dessiné. Mais à l'intérieur, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a une salle à manger bretonne, un bureau à la flamande et une chambre à coucher vénitienne, parce que bien sûr Venise faisait penser donc à l'ensemble de ce qu'on pouvait espérer dans une chambre à coucher. Donc voilà un peu le comble, je dirais, du régionalisme, c'est cette nouvelle architecture qui pourrait être interprétée comme une architecture moderne aussi, parce qu'il y a tous les éléments aussi du moderne. Il y a certes les éléments et les poncifs de l'architecture régionaliste, mais il y a aussi les garde-corps art déco, du style paquebot, etc. et autres. Et le plan est aussi un plan d'architecture moderne. Donc c'est intéressant de voir ce type de construction. Dernière période, parce qu'on en a bientôt terminé, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, où là, ce n'est plus une architecture conduite par les banquiers et par les privés, mais c'est une architecture conduite par l'État, et l'État au plus haut niveau. Et c'est pour ça que je vous ai montré cette photo. Au plus haut niveau, le général, son ministre de l'Intérieur, Marcelin, avec l'œil pénétrant, l'œil toujours énigmatique de Guichard, l'aménagement du territoire, et bien sûr tout ça produit des missions, des cadres, des organismes qui sont conduits bien sûr par les énarques. Ici un énarque célèbre, Racine, et Racine qui montre donc les éléments, et avec quelqu'un qui se frotte les mains, c'est bien sûr l'architecte qui, bien sûr, sait que derrière, il va avoir une production. Et donc la ville nouvelle de la deuxième, des Trente Glorieuses, c'est ça. C'est du plus haut placé jusqu'à l'architecte, le rassemblement, puisque c'est l'État qui produit la construction, qui produit les nouveaux plans, c'est l'État qui produit les villes nouvelles. Et non seulement pas une ville nouvelle, mais une chaîne de villes nouvelles. Ça va être la mission Racine, et surtout ici, la MIACA, bien sûr. La mission qui va permettre l'aménagement de toute la côte aquitaine, que peu d'historiens ont encore... il y a eu peu de thèses, et donc j'espère que dans la salle, il y a des futurs thésards qui vont se mettre à travailler sur la MIACA, et qu'il va y avoir une magnifique exposition dans quelques années, produit par Arc en Rêve, sur les grands projets de la MIACA, bien sûr. Il faut absolument que dans les 5 ans, on puisse tirer tous les magnifiques dessins qu'il y a ici, qui dorment dans les tiroirs, soit dans les archives ici, je vais y aller encore demain, ou à Paris ou ailleurs, qu'on interviewe tous les gens qui ont travaillé à la MIACA. Il y a encore des acteurs qui sont ici dans la salle et des acteurs qui sont à l'extérieur, et c'est une histoire qui est importante. On ne peut pas parler de la côte aquitaine aujourd'hui sans la MIACA. Et donc vous voyez que c'est une histoire encore qui est très chaude encore, qui est en train encore de se finir, je dirais. Et donc c'est ce travail des historiens qu'il faut continuer, aussi bien sur la côte languedocienne que sur la côte aquitaine. Et alors là, c'est les projets mirifiques. C'est-à-dire qu'en même temps que le Concorde, ici, c'est au même niveau, Paris Match, qui titre « Voici la Floride de demain, le Languedoc », produit l'image gaulienne du Concorde et en même temps du réaménagement du nid à moustiques du Languedoc-Roussillon. Ça frappait les foules. Et donc là où il n'y avait que une terre de paludisme, une terre vraiment qui valait rien, on va amener 1,5 million d'estivants en l'espace de 10 ans. Voilà le projet vraiment extraordinaire qu'on offre aux lecteurs de Paris Match. Et pour que ce soit extraordinaire, il faut non seulement qu'il y ait un urbanisme de choc, comme ici, mais également qu'il y ait une architecture futuriste. Et voilà l'architecture futuriste de Balladur pour la Grande Motte, qui est une architecture qu'il dit avoir trouvée. Alors c'est vrai que dans ses premiers projets, c'était du sarcelle, c'était des barres. Il a été donc dans plusieurs missions, en Roumanie d'une part, en Floride d'autre part. Il dit en tout cas dans ses mémoires que, ayant été au Mexique, il a vu donc les pyramides mexicaines, dit-il, mais c'est sans doute qu'une légende, mais peu importe, et qui s'est inspiré donc des pyramides pour pouvoir construire donc ici cette architecture-là. Mais peu importe, puisque c'était d'abord un expressionniste et un sculpteur de l'architecture avant d'être et en même temps un architecte, mais il a produit en tout cas une architecture qui est aujourd'hui listée sur les labels du XXe siècle français. Voilà donc ce que ça donne un peu en 68, les premiers éléments. Je passerai tous les détails, mais on pourra les reprendre de cette architecture qui n'est plus du tout, voyez, parallèle au bord de mer. Au contraire, c'est par rapport au vent dominant. Il n'y a plus du tout de promenade. Donc le principe même de la promenade, on n'a plus besoin, puisque dans les années 60-70, qu'est-ce qui apparaît? C'est les marinas. C'est d'avoir son bateau. Donc ce qui est important, c'est le port ici. Et on va les démultiplier, les ports. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir son appartement ici, devant le port. Et donc le premier lieu qui va être bâti et structuré, c'est tous les immeubles qui vont être autour du port. Voilà donc l'image un peu de ces nouvelles stations de la deuxième moitié du XXe siècle. L'image aussi, c'est la reconstruction. Et parce que tout ce littoral-là, notamment dans la partie ouest, va être bombardé, rebombardé, dynamité, et Royan, c'est quelque chose, et ses habitants qui sont ici et ses représentants en savent quelque chose. Et donc on va reconstruire des villes nouvelles en bord de mer, et des villes balnéaires vont être reconstruites. Royan va être un magnifique exemple, et ça va être fait par des architectes qui vont être en partie bordelais, mais qui vont regarder à partir donc des années 60, au-delà des mers. Et on va s'inspirer de l'architecture brésilienne, qui va être mise dans les revues d'architecture, pour pouvoir ici faire le décor de ce magnifique casino, qui va être le pivot, vous voyez, de l'urbanisme ici, de la Grande Conche. Malheureusement, dans les années 80, pour des raisons vraiment de strict entretien, un peu bizarroïdes, mais surtout, et on le voit bien pourquoi, pour agrandir le petit port qui était là, pour faire des anneaux supplémentaires, comme on le fait partout. Et la guerre des anneaux a attaqué ce casino, il est tombé rapidement. Et donc on a ici l'extension du port, mais qui ne veut plus rien dire. Parce que c'est pas le port qui... et on a voulu faire une marina d'une station qui était encore régie par le système de la promenade et du casino qui générait, donc on est là, ce qui est intéressant sur Royan, c'est qu'on est là à l'articulation entre l'ancien concept de la ville balnéaire et du nouveau concept de la marina qui a balayé tout, qui a cassé l'ancien, et sans que les Royanais s'en aperçoivent. C'était la pression économique qui a fait tout. Donc ça, c'est très intéressant pour l'histoire même du balnéaire à Royan. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est une ville et pays d'art et d'histoire, donc c'est une leçon d'architecture extraordinaire, parce qu'on a encore le parc d'hiver, et on a encore tous les éléments de l'ancienne station, et on a les éléments de la nouvelle station. Donc on a trois générations de stations à Royan. Donc c'est une ville sur l'histoire de l'urbanisme et sur l'histoire de l'architecture qui a vraiment beaucoup de chances encore d'exister et de pouvoir être valorisée. Alors, au lieu de montrer des grandes barres, etc., il y a eu un mouvement contre les barres qui a été bien sûr l'essentiel du mouvement de la Miyaka, mais qui a aussi essaimé partout. C'est-à-dire ces petites maisons individuelles, se retrouver les petits hameaux, des petits villages de vacances. Là, ici, l'atelier de Montrouge a essayé, donc au Merlier, sur la Méditerranée, de refaire ces petits villages de vacances en style de casbah, où le milieu familial, le milieu en tout cas de la société, même s'il n'y avait plus la grande promenade en avant, on se retrouvait entre soi et c'était un milieu de sociabilité très forte qui a été retrouvé et qui était qui a été en tout cas anéanti par les grandes barres en bord de mer. La même chose en lotissement paysager avec des formes organiques à Port-la-Galère, avec surtout Jacques Couël, mais vous voyez que c'est le même souci ici de pouvoir recréer des petits espaces troglodytiques où on est à l'intérieur d'eux, où on se retrouve, où on médite, où on est dans une cellule familiale, à l'intérieur et devant la vision marine, qui permet de pouvoir s'accrocher vraiment à l'élément marin, au-delà simplement de l'élément ludique de se mettre dans l'eau. Donc c'est une autre philosophie de la vision balnéaire et du concept de ville balnéaire que ces petits hameaux aux formes organiques sur les pointes rocheuses, regroupés, enfin avec des habitations regroupées en grappes de logements, mais pas du tout avec un urbanisme orthonormé. Également les expériences de villages de vacances, ici donc sur la côte bretonne, où vous voyez aussi un essai d'architecture organique avec des formes de bulles, là, qui vont être des regroupements de petits éléments d'igloos en béton qui vont être mis les unes à la suite des autres. Et vous voyez tout à fait les concepts utopiques qui vont être derrière ces nouvelles villes. Et là, vraiment, dans les années 70-90, ça va être une flopée de concepts utopiques qui vont être essayés sur le bord de mer. Alors, avec des architectures en plastique, des palais-bulles, etc., donc en poids. Et pour la côte landaise, le principe d'un urbanisme éclaté en forêt. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui a trouvé cette formule. L'un de ceux qui l'a le plus cité, en tout cas, c'était Belmont, qui faisait de très beaux articles et des très belles phrases. Je ne sais pas si c'est lui qui était à l'origine, bon, ou autre, peu importe. Mais en tout cas, bon, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'en arrière, on ne voulait pas créer des grands éléments, d'ailleurs on ne pouvait pas parce que c'était des dunes, etc. Mais en arrière, on avait des marécages, et donc en pointe, en arrière-pays, on a essayé de créer des petits villages comme ça, avec des marinas, enfin de ce qu'on a appelé des marinas, mais des marinas à la landaise, c'est-à-dire que ce n'était pas des marinas pour des bateaux directement, des yachts importants, mais c'est des marinas pour aller d'un lieu à un autre, dans un milieu de marécage, pour aller à la pêche, etc. Donc un milieu lacustre et un milieu de petites maisons individuelles. Et vous verrez toute une série de très belles photos faites par le photographe de l'inventaire, qui est maintenant parti, je crois, mais en tout cas, Michel Dubeau. Donc ces magnifiques photos qui sont dans le livre que vous avez derrière vous. Bien sûr, bon, on ne peut pas ne pas citer les grands fronts de mer, même s'ils sont en béton, même s'ils sont, si le chemin de grue a été un peu dévié, même si, etc. Et là, quand même, avec une architecture qui a été très décriée, mais qui est un essai quand même de réunir et de casser la barre, soit par des notions que Castro remettra encore en valeur pour casser les barres et les tours à l'Orient, avec des dégradés de hauteur et avec également un principe ondulatoire, mais toujours avec des appartements regardant sur la marina, donc des villes fermées quasiment autour d'une marina. Et la ville fermée autour d'une marina, mais là en maison individuelle et pittoresque, qui répond parfaitement à ceci. Donc vous voyez là la ville fermée qui est ici, mais la ville fermée proposée par Squeri, c'est la ville pittoresque, c'est-à-dire les petits éléments ici. C'est les petites maisons à la Provençale, avec une fortification, certes, issue des fortifications que l'on peut trouver dans le nord de l'Italie ou ailleurs, peu importe, mais c'est le principe pittoresque, régionaliste, qui revient à la mode, mais individuel. C'est-à-dire chacun peut voir son bateau, non pas du haut de son appartement, mais directement de sa salle à manger. Il fait trois pas et il est dans son bateau. Et ils ne regardent absolument pas, il n'y a pas de casino à Port Grimaud, il n'y en a pas besoin. On n'a pas besoin de se mettre en représentation. On est là pour se retrouver entre soi et dans les petites maisons, comme les maisons de banlieue, avec ses caractéristiques propres, chaque maison étant différente de celle du voisin, bien sûr. Et voilà la fin, ou en tout cas le renouveau du régionalisme et de ces gate communities, c'est-à-dire ces villes fermées donc, de parcs de loisirs, qui sont maintenant les nouveaux villages de vacances qui essaiment partout,
Et là, on ne parle plus de villages de vacances, on parle d'éco-resorts, ça fait beaucoup mieux. Mais en fait, c'est des villages de vacances avec lesquels vous rentrez dans un bracelet et vous êtes en vidéo pendant tout le temps. Bien sûr, la sécurité. Donc ça, vous êtes en sécurité, vous êtes vu par le grand œil jour et nuit. Ça, il n'y a pas de problème. Et vos enfants peuvent faire du petit bateau ici, sans vous, avec un moniteur, etc., et des vidéos qui sont là. Et vous avez votre petite maison individuelle que vous louez pour un jour, pour deux jours, pour trois jours, avec votre feu de bois pour un jour, pour deux jours, pour trois jours. Et le feu de bois, ça veut dire aussi votre tas de bois que vous achetez pour avec autant de petits morceaux de bois pour retrouver le milieu familial que vous n'avez plus du tout en ville depuis bien longtemps parce que vous vivez une vie dispersée, etc. Donc retrouvez-vous dans un cocon. À l'intérieur, vous avez trois séries de barbelés qui vont bien vous enfermer et qui vont vous empêcher de voir vraiment la mer et le front véritable de la mer, mais vous serez en bord de mer. Mais vous rigolez, mais vous avez la même chose en montagne aujourd'hui. Et Valmorel et ailleurs, c'est la même chose. Et également à Disneyland. Et également donc dans le Val d'Europe, etc. C'est donc le principe. Non plus de la promenade ni de la maison individuelle, mais c'est le principe, en contraire, de la ville de loisirs qui est le principe totalement anglo-saxon, qui est le principe en fait de la ville du parc de loisirs où vous utilisez, vous consommez du loisir, donc vous achetez autant de cours de tennis, même si vous ne savez pas jouer au tennis, on vous apprendra à jouer au tennis, à jouer au golf, etc. Et vous avez un espace sécurisé de distraction, de loisirs pour la ville. Enfin, dernière image, c'est que toutes ces architectures-là sont des architectures, en fait, qui sont très souvent remarquables. Et sur ce remarquable-là, on ne va pas mettre des monuments historiques partout, on ne va pas faire des AVAP et des ZPPUP partout. L'idée qu'on a eue à la Grande Motte, parce que justement le point zéro était déjà en phase de démolition, c'était de mettre des labels patrimoine 20e siècle pour que les habitants puissent se dire mais on vit effectivement dans des villes exceptionnelles qui sont souvent des villes modèles, qui sont souvent des villes nouvelles. Et donc le maire qu'on a été voir il y a maintenant un an et demi avec 35 Canadiens. Il a vu débarquer 35 Canadiens, mais pourquoi ? C'était un jeune maire qui venait donc d'être nouvellement élu hein, l'année dernière. J'ai dit, c'est quand même bizarre, 35 Canadiens qui viennent me voir et qui disent que ma ville est formidable et que j'ai beaucoup de chance, etc. Moi, il venait de faire un concours pour renouveler tout le mobilier urbain de Balladur. Tous les ponts de Balladur, etc., ils voulaient des ponts à la moderne parce que, soi-disant, les voitures de pompiers ne pouvaient plus y passer, etc. Et tout, donc, ils voulaient tout rénover. Je lui ai dit, mais vous avez rendez-vous, on lui a parlé, il nous a offert un pot, et vous avez rendez-vous avec le DRAC pour justement refaire votre salle des fêtes et tout. Parlez-lui que votre ville a peut-être un intérêt et d'un label 20e siècle. Il y a eu un CRMH qui était très bien, qui était là, etc. Et de fil en aiguille, maintenant, il a été invité. Hein, il défend sa ville vraiment comme les gens de Royan défendent leur ville. Alors que, mon Dieu, il est en train de la démolir. Mais peu importe, il la défend. Voilà. Donc il a pris la défense de sa ville, alors qu'avant, il avait vraiment envie de la saccager. Quoi. Donc petit à petit, il y a un réseau à établir entre non seulement les chercheurs, mais également les responsables de ces collectivités-là. Et aussi les responsables des villages de vacances. Puisque si on veut une architecture qui ne soit pas trop une architecture banalisée, pittoresque, que vous trouverez aussi bien en Floride, au Japon ou en Égypte, il faut quand même que la culture parvienne à Pierre et Vacances. Donc des centres comme Arc-en-Rêve, on croit que ces centres-là peuvent être des ferments pour mettre le bon levain dans la pâte de la bonne architecture. Merci.
Régional.
Justement, votre inventaire qui est dirigé par Éric Cros, qui est ici présent. Voilà, merci. Écoutez, je crois que quelques autres fidèles.
bien pendant que Bernard se désaltère. Voilà, bon, j'étais un petit peu censé jouer le rôle du contradicteur, de la mouche du coche. Ça ne va pas être très facile. Après, déjà, un exposé aussi construit, aussi fait au béton et au chemin de grue, donc aussi inattaquable, donc c'est un petit peu difficile de jouer ce rôle-là. Et de plus, je dois la vérité de dire que ce livre dont il est question en fait ce soir est résultat d'un travail commun, comme l'a dit Bernard Toulier tout à l'heure, des équipes régionales d'inventaire, et que j'y ai aussi modestement une petite part dans ce livre, donc ça va être un petit peu difficile d'en faire une critique, donc ça ne sera pas tout à fait ce cas-là. Donc ça va être très, très court, parce qu'on a maintenant très peu de temps, quatre axes un petit peu de réflexion pour préparer un peu Bernard Toulier, parce que nous n'avons pas voulu jouer le jeu de préparer l'entretien, donc ça sera tout à fait improvisé et spontané. Donc quatre axes, d'une part sur la question de l'architecture balnéaire, est-ce qu'il y a une architecture balnéaire, est-ce qu'il y a, deuxième axe, un urbanisme balnéaire spécifique, troisième axe, qu'en est-il d'aujourd'hui et de demain, parce qu'effectivement c'est une grosse question, me semble-t-il, de ce domaine-là, et quatrième axe, la question patrimoniale. Bernard vient d'en parler à l'instant, mais on pourrait peut-être approfondir la chose. Donc premier axe, l'architecture. Donc on a vu donc ces grandes périodes que vous avez identifiées, vous êtes efforcé de faire coïncider, je crois, les grandes étapes des pratiques de la villégiature des bords de mer et les grandes périodes de l'histoire de l'architecture. On a vu donc ces cinq grandes périodes, l'invention du balnéaire et la fascination néoclassique, l'essor des stations éclectiques et pittoresques, etc., la belle époque, les années folles, etc. On sent un petit peu l'éditeur derrière qui vous tient le stylo, qui pour avoir des titres qui parlent un petit peu au grand public, les années folles, la belle époque, ça fait un petit peu vendre, mais c'est aussi une réalité historique et architecturale. Donc, mais le propos, effectivement, paraît comme ça alléchant, mais quand on regarde de plus près, on sait que les grandes périodes, qu'il n'est pas toujours facile de faire coïncider les grandes périodes de l'histoire de l'art et les grandes périodes de l'histoire tout court, de l'histoire politique et autres, et qu'on a souvent des décalages extrêmement importants. Et d'autre part aussi, on voit qu'on peut buter sur cette question-là, sur la question proprement architectonique, sur l'architectonographie, pour employer un mot un peu savant, et effectivement la question est ardue. On voit que vous êtes passionné par l'espace de la villégiature, par les pratiques des villégiatures, que les historiens comme Alain Corbin, avec ses travaux très stimulants, ou les sociologues comme Jean-Didier Urbain, là aussi avec des travaux très très importants, et vous-même ont parfaitement mis à jour comment le villégiateur déambule, quelles sont ses activités, quels sont temps d'activité, son temps de repos, et toutes ces pratiques, et à chaque activité, à chaque lieu, un lieu dédié est conçu spécifiquement, que ce soit à l'échelle de la ville, donc un lieu spécifique, mais aussi que ce soit à l'échelle de la maison proprement dite, où là aussi il y a des lieux, des pièces très spécifiques à cette pratique de la villégiature. Mais comment tout cela se traduit de façon architecturale? Il me semble que les pistes sont là, mais que le chantier est encore ouvert, qu'il y a encore du travail à faire. Donc je vais préciser ma question. Là, on a vu donc un très bel échantillon, un très beau catalogue d'architecture et avec donc des commentaires tout à fait intéressants. Mais est-ce qu'il y a, à votre avis, une architecture spécifiquement balnéaire? À partir de ces conditions, de ces programmes si spécifiques, y a-t-il des expressions particulières ou au contraire quelque chose de plus universel? C'est sûr que quand on parle d'architecture balnéaire, on a souvent un peu la vision des architectures arcachonnaises ou soulacaises, et on a l'impression que tout cela est vraiment très spécifique, qu'on ne trouvera cela que parce qu'il y aura une espèce de vent de liberté, un vent du large en quelque sorte, qui aurait bousculé tous les carcans architecturaux et qui donnerait une espèce de levain, de ferment, d'invention pure. Un vent de liberté, peut-être même un vent de folie. Mais est-ce que c'est bien sûr? Si l'on observe les banlieues des grandes villes qui s'urbanisent à cette époque, à ces époques-là que vous avez bien identifiées, fin 19e, début 20e, entre deux guerres, etc., toutes les villas suburbaines que l'on voit dans ces lieux-là, sont-elles vraiment si différentes de ce qui se passe en bord de mer, à votre avis?
Oui, donc, ce qui nous a intéressé, c'était d'abord que cette histoire du balnéaire était d'abord une histoire économique, j'espère que vous en êtes aperçu, et que la partie stylistique est plus banale, c'est-à-dire que le style est d'abord le moyen de promotion et le moyen de vivre en convivialité par rapport à un goût. qui évoluent. Donc il y a une certaine relativité par rapport aux historiens de l'art traditionnel sur ce lieu. Et donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas suffisamment et consciemment en tout cas accentué sur le style. Qu'il soit balnéaire ou pas, peu importe, il est en rapport avec le lieu. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, c'est d'abord le topos. Et donc ce lieu-là, il a été particulièrement bien travaillé par les spécialistes, architectes, urbanistes, paysagistes. Et le rapport au lieu, dans le, on a bien vu par rapport à la promenade, par rapport au plan, par rapport aux entrées, par rapport au point de vue, par rapport aux orientations. Quand vous voyez la grande motte, c'est encore par rapport au lieu que toute la grande motte s'établit, c'est-à-dire par rapport au vent dominant, etc. Donc tout ceci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une architecture très ancrée au lieu. Et ce lieu-là est très fragile. Il est très fragile parce qu'il est sur du sable, il est très fragile parce qu'il y a de la marée, il est très fragile parce qu'il y a des falaises qui tombent en permanence, qu'il faut toujours, on le voit bien sur la côte des Basques, continuellement, essayer de stabiliser ces falaises, aussi bien le bas que le haut de la falaise, et quand c'est, les deux sont stabilisés, c'est au milieu que les sources se mettent à sourdre et que tout risque de s'effondrer. Donc à chaque fois, c'est une bataille sans merci pour le lieu, pour conserver le lieu, pour essayer d'avoir un lieu qui soit figé. Et ça, ça me semble aussi important que la bataille du goût. Donc ce rapport au lieu. Et en fait, il n'y a rien de plus international que cette architecture dite locale, qui a besoin de ses racines locales, qui va chercher ses racines dans l'architecture régionale, souvent. Donc c'est un magnifique réservoir d'architecture régionale. Mais qu'est-ce que c'est que l'architecture régionale ? Si ce n'est une architecture qui est d'abord internationale. Et donc, ce chalet à la Suisse, mais vous l'avez partout, et pas uniquement que à Arcachon, vous l'avez en Norvège, vous avez des chalets en Suisse, en Amérique du Sud, vous avez des chalets à la Suisse, partout. Et donc, ce rapport qu'on croit vraiment spécifique, et là, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'ouvrir. Je crois que dans le Festin, il y avait eu un article intéressant sur les néo-basques dans le monde. Et donc, moi, ce qui m'a poussé, je dois dire, par exemple, c'est l'architecture balnéaire que un autre de mes collègues, donc Hubert Maheu, m'a fait découvrir à Pointe-Noire. Il m'a dit, mais pourquoi il y a du néo-basque en plein cœur de l'Afrique équatoriale? Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était pas des estivants qui étaient là. C'était vraiment des colons qui étaient là pour faire suivre Bournou à d'autres personnes. Donc ce n'était pas du tout une architecture qui pouvait peut-être rappeler, dans certains cas, une architecture donc qu'on pouvait trouver sur les côtes, mais pas vraiment, quoi. Donc pourquoi, à Hanoï, à Dalat, on a de l'architecture... si on considère que l'architecture régionale néo-basque pourrait être du balnéaire, pourquoi on en a dans le monde entier? Et donc c'est... ce contexte local, du local à l'international, qui est intéressant à chaque fois dans le balnéaire. C'est que le balnéaire est un milieu qui permet de voir la culture de l'arrière-pays comme la culture de l'autre côté de la mer. Donc c'est un milieu mixte de culture, beaucoup plus forte encore que la ville. C'est un milieu qui est toujours sous pression, et qui doit toujours, pour exister, être à la mode du lendemain. C'est un milieu qui agit toujours avec la concurrence et la promotion. Et donc c'est un milieu qui doit faire de l'argent et qui doit prouver que la culture est la culture vraiment d'aujourd'hui, pour les gens qui viennent en loisir aujourd'hui. Et que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il faudra changer l'ensemble de cette architecture-là. Et donc la force... et aussi le besoin, je dirais, de conseils qu'ont les responsables des collectivités de ces stations sont très très fortes. Il faudrait qu'il y ait des CAE spécifiques uniquement pour le bord de mer, parce que c'est là où la pression est très très forte, parce qu'ils ne peuvent pas conserver l'architecture des années 50 à Royan. C'est pas possible, c'est impossible. Donc comment en faire pour expliquer aux gens que c'est important? Comment faire pour... Je regrette, je suis en même temps sur le
patrimoine. Oui, mais c'est bien.
C'est la même chose. C'est-à-dire que cette architecture dite régionale, aussi bien donc la Villa Kosicki qu'à côté la Villa Poitevine, qui est juste à côté, qui est le résumé du régionalisme poitevin, qui est un régionalisme qui n'a pas encore son chantre, mais qui, j'espère, va avoir ses belles lettres bientôt et sa belle exposition à Royan ou ailleurs. Donc ces architectures régionales sont vraiment spécifiques, mais sont plus du tout dans le goût d'aujourd'hui. Donc, aussi bien l'architecture moderne, est-ce que c'est plus l'architecture moderne que l'architecture régionale qui est balnéaire ? Moi, je dirais, peu m'importe. C'est l'architecture en contexte local par rapport au topos.
D'accord. Alors là, vous mettez en fait un signe égal entre architecture et style. Donc effectivement, en insistant sur les questions du goût qui évolue, des questions de mode et des questions de l'architecture comme vecteur publicitaire pour coller au goût du futur acquéreur, donc effectivement, qui est un aspect extrêmement important pour ce domaine-là. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des grands architectes qui travaillent sur la côte, les côtes atlantiques ou méditerranéennes. Des architectes qui sont des chefs de file et non pas des suiveurs qui sont des théoriciens. Et on a les plus grands là ici qui ont profité de ce champ d'action et de ce marché qui pouvait exister pour intervenir. Et donc là, ces gens-là, ils sont aussi, bon, ils ont leur clientèle, mais ils sont aussi, ils font des espèces de manifestes architecturaux. On voit beaucoup de manifestes architecturaux d'importance sur les côtes, il me semble. Vous disiez tout à l'heure quelque chose d'extrêmement important, cette question des recueils, des revues d'architecture qui jouent déjà dès le 19e siècle le rôle qu'elles jouent maintenant, un rôle de diffusion, de modèle. Quand une maison est publiée en revue ou en recueil, on la voit après démultipliée en copie sur l'ensemble du territoire. Mais ces revues, ces recueils jouent aussi le rôle de vecteur des manifestes architecturaux. Et là, je crois qu'il y a, quand même, il y a aussi vraiment un travail architectonique important qui dépasse la question du style, me semble-t-il, non ?
Je mettrai un bémol dans ce que vous dites. C'est-à-dire que, certes, il y a des grands noms de l'architecture, mais il n'y en a pas autant que ça. Je croyais qu'il y en allait en avoir plus. C'est surtout sur l'architecture de l'habitation que les choses se jouent. Sur l'architecture des... Je n'ai pas vu des grands palaces et des grands hôtels très intéressants. J'ai les casinos, certes, mais beaucoup plus au niveau du décor.
La côte basque, on voit Duc, on voit Sauvage, on voit Sarrazin, oui, on voit Viollet-le-Duc aussi qui
oui,
fait...
Mais beaucoup plus, moi ce qui m'intéresse davantage, c'est justement les plans qu'il propose, les expériences qu'il propose, mais qui sont en fait des plans qu'on retrouve dans tous les châteaux, dans toute la campagne entière, etc., au moins jusque dans les années 70-80. Et... même pour les châteaux des bords de mer, les grandes villas des bords de mer, j'ai moins trouvé de spécificité que je croyais au départ avoir dans mon hypothèse de travail. Là, ça, non pas, ça n'a pas été une déception, mais ça a été un constat. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du territoire entier qui doit nous servir de comparaison. Et il y a autant d'innovation dans les châteaux soloniaux que dans les châteaux en bord de mer de toute la côte atlantique. J'ai pas vu... il y a un magnifique palais, par exemple, à Saint-Palais, enfin, un palais à l'italienne, un peu... Enfin, non, néo-roman...
La maison romane de Saint-Palais. Très, très, très bel édifice, protégé, je pense.
Il y a des maisons néo-gothiques et des châteaux néo-gothiques magnifiques en arrière-pays existent également... Et ce n'est pas une spécificité balnéaire. Donc quand on regarde, par exemple, la maison folle du baron de l'Épée, l'innovation architecturale qu'il y a à l'intérieur, pour moi, c'est un cube, une boîte. Il n'y a rien d'innovant au niveau architectural. C'est la folie de la personne qui était à l'intérieur, c'est les orgues, tout ça, pendant quelques temps. Mais le bâtiment lui-même, je n'ai pas trouvé qu'il était vraiment... différent de ce que le même architecte pouvait produire ailleurs, quoi. Donc là, de ce côté-là, je dirais que c'est une terre d'innovation pour les villas et une terre de modèles, parce que justement, c'était dans le contexte. Et que parce que c'est en bord de mer, on va la faire ailleurs et elle va servir de... C'est-à-dire que c'est plus le milieu qui agit comme un produit touristique et artistique que le bâtiment lui-même. Voilà. Un Lolé, ce n'est pas un grand architecte.
Je suis d'accord.
Pour toute la, la, mais bon, c'est un architecte qui a beaucoup produit dans un certain milieu. Mais bon, à l'époque, en 28, quand on voit Amalie Stevens, bon, bon, c'est, y a quand même une petite différence. Quoi, voilà.
Et mais ça va être, il intervient sur la côte basque.
Par exemple, ce qu'il a fait à Noailles, il s'est fait taper dessus à chaque fois par le propriétaire commanditaire qui ne voulait pas du tout de son architecture. Et même l'entrepreneur qui l'a dû utiliser pour faire sa construction ne comprenait même pas son architecture. Donc, bon, c'est une architecture parmi les plus innovantes, mais pas parmi les plus réussies, quoi. Donc, très souvent, moi, j'étais un peu déçu par la puissance qu'on pouvait avoir, mais c'était, les revues permettent d'enjoliver, parfois. Il n'y a que dans le contexte de la villa, peut-être qu'il y a des choses intéressantes.
Voilà. Donc là, je pense qu'effectivement, le débat reste ouvert et qu'on pourra en trancher quand on aura accumulé suffisamment de monographies et d'exemples. Maintenant, si on passe maintenant à l'échelle supérieure, donc à l'échelle de la ville, même question, est-ce qu'il y a une ville balnéaire spécifique ? Moi, je me souviens, donc, dans les premières études qui ont été faites sur ce sujet-là, donc, il y avait la très belle étude de Dominique Rouillard, parue en 1984, qui s'appelait le site balnéaire, où donc, le point de départ était la station d'Oulgat, que Bernard Toulli a montré tout à l'heure. Et là, effectivement, on a donc on a une espèce de mimétisme, de reproduction de la vraie ville, entre guillemets. On voit qu'il y a un bois de Boulogne à Oulgat, hein, Bernard en a parlé tout à l'heure. Il y a des Champs-Élysées ailleurs dans d'autres stations. Enfin, on essaie de reproduire la ville presque haussmannienne. Et donc, il y a cette tendance-là. Mais en même temps, il y a aussi des villes extrêmement différentes, très peu organisées. Et on a le joyeux désordre de Biarritz qui pourrait tendance à nous faire un petit peu un cas différent. Là, on a essayé de reproduire une vraie ville, mais au contraire, on s'est un petit peu adapté aux circonstances au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce qu'il y a une espèce de balancier entre des choses très différentes ? Est-ce qu'on peut arriver à trancher là-dessus ? Ou est-ce que c'est encore très, 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 très flou et très complexe ?
Ben, pour moi, il n'y a pas de ville balnéaire. Là aussi, c'est le lieu. C'est-à-dire que c'est les principes de toute colonie. Donc, quand on colonise, on a un cardo et un décumanus. Et donc, qu'on soit ingénieur, géomètre ou architecte ou urbaniste, on a toujours les mêmes formules. Quand on ne sait pas quoi faire, on crée un cardo et un décumanus par rapport à des grands axes importants. Il y avait un axe important, c'était le front de mer. Un deuxième axe important, c'était donc l'axe de la perspective. Et à partir de là, on a construit les stations comme Oulgat, etc. Donc, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Depuis les Romains jusqu'à la station d'Oulgat, c'est les mêmes principes de construction de villes orthonormées. Et les villes des colonies que l'on construise en Afrique ou en Asie, c'est les mêmes types de colonies, c'est-à-dire que il y avait donc là, c'était l'établissement de bain qui remplaçait la fortification qu'on a dans les colonies commerciales pour défendre les commerçants. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. Quand vous enlevez l'établissement de bain, quand vous enlevez la fortification, le reste de la ville est identique. Donc, par rapport à des grands axes, l'axe commerçant, donc les boutiques, les grands hôtels et l'axe du commerce principal, c'est-à-dire le casino. Et à partir de là, les cardos et les décumanus qui orientent la ville par rapport aux grands axes de perspective. Deauville est très clair, l'axe de perspective donc, qui était donc, parallèle à la plage et après les axes qui allaient vers l'hippodrome et vers le port et la gare, donc les axes qui ouvraient les différentes perspectives. Donc là, je dirais que sur ce qui est plus intéressant, c'est que là aussi, ces villes vivent avec leur temps, avec le lieu, mais avec leur temps. Pour moi, les villes nouvelles de la deuxième moitié du XXe siècle sont les villes nouvelles que l'on construit également dans les stations de montagne et dans les productions de villes nouvelles qui sont les villes satellites autour de la grande capitale ou autour des villes nouvelles, des grandes agglomérations. Et donc, c'est les mêmes types donc, d'aménagement du territoire par la production de la réglementation des villes nouvelles qui va produire donc, la station en montagne et la ville nouvelle que l'on a vue donc, en bord de mer dans les années 70. Donc là aussi, le balnéaire est à remettre
à l'aune de l'aménagement général du territoire et en comparaison avec les réglementations qui sont à l'heure actuelle en France, en tout cas. Donc je ne vois pas de très grande spécificité. La spécificité que je vois, par contre, c'est la fermeture conceptuelle et urbanistique des villages de vacances de ces deux ou trois dernières décennies. Là, c'est vraiment une ville nouvelle ghetto. Donc les nouveaux ghettos sont intéressants parce qu'ils ne sont pas générés par des principes d'urbanisme d'État. Ils sont générés par des principes sécuritaires de petites communautés. Et ces petites communautés du tourisme sont des petites communautés que l'on retrouve aussi dans le milieu colonial. C'est-à-dire que les colons qui veulent en Afrique du Sud ou au Kenya ou ailleurs ou à Pretoria ou à Kinshasa donc se réserver ou se préserver du reste de la communauté vivent un peu de la même façon que les gens qui sont aujourd'hui et qui vivent leur village de loisirs un peu de la même façon, c'est-à-dire avec une fermeture totale. Et le système du Center Park, par exemple, qui est un système donc, du village de loisirs qui nous vient donc, des Pays-Bas, communie de la même façon en Normandie, en plein cœur de la Normandie, en plein cœur de la Sologne ou en plein cœur donc, de la campagne française, de la même façon que ces villages fermés en bord de mer. Donc ça, c'est une forme d'urbanisation spécifique dans un milieu hostile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se considère donc comme soit privilégié, soit dans un milieu hostile, ce qui n'avait jamais été le cas pendant plus de deux siècles. Donc ça, c'est intéressant à remarquer, c'est que ces villages de vacances sortent, en tout cas, des règles d'urbanisme et des règles de convivialité des communautés européennes habituelles.
Pour revenir à cette question d'aménagement de l'espace, donc effectivement, je retiens bien votre histoire d'appropriation d'un espace par quadrillage, en quelque sorte, d'espèce dans cette logique de colonie, effectivement, qu'on s'approprie. Mais il y a peut-être aussi des choses quand même un petit peu plus pensées que cela. Et justement, je vois cette question que vous abordez de la ville néoclassique dans cette première partie de votre travail, de la ville éclectique et après donc de la ville un peu régionaliste. Là, il y a des choses qui me paraissent assez intéressantes. La ville est une espèce encore de balancier entre des tendances très différentes. On a la ville néoclassique qui cherche effectivement à unifier par un style uniforme l'ensemble des programmes. On a après la ville éclectique qui, au contraire, cherche à différencier les programmes, cherche à même presque à faire une espèce de lutte des classes architecturales entre l'habitation ouvrière et le palais du riche nanti. Et au contraire, la ville régionaliste qui apparaît après dans le début du XXe siècle, qui, elle, pourrait peut-être effectivement, voudrait peut-être réunifier les choses, pacifier les choses, après la lutte des classes, arriver à une espèce de paix des classes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon très intéressante chez quelqu'un qui s'appelle Henri Godbarge, qui est architecte de la Côte Basque, et qui, effectivement, dit les choses de façon assez clair en disant qu'effectivement le régionalisme architectural a vocation à traiter de tous les programmes de l'habitation très modeste à la grande villa et même à le grand équipement public, donc une espèce de ville régionaliste qui pourrait revenir après le balancier de la ville éclectique, de la ville des différences et des hiérarchies, qui pourrait revenir justement à quelque chose de beaucoup plus uniforme. Et là, je crois qu'on a quand même Osgore est justement un laboratoire pour ces gens-là. Et on a la mise en œuvre, en réalité, in situ, d'une réflexion qui dépasse le simple quadrillage d'occupation du territoire. Et là, je crois que là aussi, on a des penseurs qui veulent, qui ont des consciences de leur vocation urbaine et qui cherchent aussi, sur un terrain qui est privilégié, parce qu'effectivement, il y a des commandes et il y a des choses qui se passent sur le bord de mer, qui cherchent justement à appliquer un manifeste ou une idéologie.
Oui, tout à fait. Mais c'est ce est-ce qu'on peut dire que c'est ce régionalisme-là qui continue aujourd'hui dans les villages de vacances ou non ?
Ça nous amène au dernier point, enfin à l'avant-dernier point de notre.
Ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose ?
C'est effectivement qu'est-ce qui se passe donc effectivement aujourd'hui et demain, puisqu'on constate qu'on a. Quand on voit par exemple donc dans cette rôle de l'éphémère que le casino est transcrit de façon très, très précise, effectivement le casino se doit d'être toujours à la mode, donc se doit de revêtir toutes les modes. On voit que le casino du 19e, c'est superbe, le casino du 20e, c'est parfait. En, les années 50, 60, 70, on a encore des très belles créations architecturales. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, on semblerait qu'on soit qu'on ait tendance. Est-ce que, Francine, est-ce que tu n'as pas de partenariat avec le casino Barrière ou Parpouche dans ton
dans ta structure? On peut en parler.
On peut y aller. Bon, il n'y a personne dans la salle qui. Effectivement, là, on est obligé de... On est donc confronté entre choisir entre actuellement le goût des partouches et le goût des barrières. Donc c'est quand même effectivement une époque difficile pour les gens de goût entre guillemets. Je rappelle une petite anecdote. Nous étions dans une de ces réunions sur la villégiature à Vichy avec Bernard et d'autres personnes. Et donc nous déjeunions le midi au casino partouche de Vichy. Et là donc nous avions dans un décor assez improbable, nous avions une grande pancarte qui nous disait ici buffet à gogo. Donc effectivement, dans tous les sens du terme, je crois qu'on était parfaitement dans des buffets à gogo dans ce casino partouche de la ville de Vichy. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui? Vous l'avez déjà un petit peu dit. On a déjà eu quelques images, avec notamment donc, ce qu'on a pu voir dans les dernières créations de dîners, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui et demain? Est-ce que cette espèce de formidable amplificateur de tendance qu'était la villégiature ne va pas justement se jouer contre l'architecture en amplifiant des tendances les moins bonnes de notre société? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Bien, c'est pas noir et blanc, parce que les architectes aujourd'hui de ces villages de vacances sont des architectes qui ont pris des cours chez Lacan, qui connaissent bien donc la psychologie de masse, qui ont des armées de sociologues avec eux, qui se payent des historiens d'architecture, qui se payent au Maroc les meilleurs spécialistes sur les ksours, les casbahs, etc., et qui savent très bien manier l'ensemble du vocabulaire et du formel régionaliste comme les grands architectes régionalistes de l'entre-deux-guerres. Ce sont des machines de guerre sur lesquelles... on ne peut pas tirer un trait de plume comme ça. Ce sont des personnes qui construisent des villes de 10 000, 40 000 habitants. En Géorgie, là, Diener est en train de construire donc un village de vacances de 80 000 habitants. Et donc, c'est derrière des banquiers qui y croient, etc. Et autres. Donc, c'est quand même nos villes de demain qui sont en partie entre leurs mains. Donc ce sont des gens qui sont censés, en tout cas, pas faire uniquement une architecture de façade, qui savent très bien utiliser le style local comme il faut, dans le répertoire qu'il faut, et à sa juste mesure, etc., et matiner d'art déco quand il le faut, et donc des grands adorateurs des travaux de l'architecture de la Côte Basque de Maurice Culot, etc., et autres, aussi bien que les travaux sur l'architecture moderne. Donc ils connaissent parfaitement leur gamme et ils connaissent parfaitement leur métier. Et aussi, derrière, ce sont des agences, ce sont donc des cabinets et c'est des sociétés en train de se construire. C'est tout ce que je peux apporter comme témoignage, parce que aujourd'hui c'est une architecture en train de se faire, et je suis un historien en train de travailler sur l'histoire du temps présent, ce que je ne veux pas faire.
Très bien. On peut conclure de cette partie-là en disant que, en donnant la phrase de Monsieur Diner l'autre jour à cette réunion que nous avions eue à Paris. Il y a une semaine, effectivement, il nous a dit clairement, quand il propose une architecture pour un client, donc il ne veut pas imposer une leçon d'architecture, mais il veut lui donner ce qu'il attend, quoi, effectivement. Donc il ne cherche pas à donner de leçons de quoi que ce soit. Et donc effectivement, il s'agit là d'une toute autre échelle. Je crois que le régionalisme de maintenant, de cet ordre-là, et celui des années 30, est extrêmement de nature extrêmement différente. Les architectes des années 30 étaient effectivement en attente d'une clientèle et devaient donner l'image que la clientèle souhaitait, mais sans jamais déroger à ce qui était leur principe, concept. Leur conception, qui était vraiment très très forte, qui était les acquis de plusieurs générations d'architectes et de plusieurs leçons d'architecture. Ils n'ont jamais dérogé en quoi que ce soit à cette exigence-là, me semble-t-il. En fait, dernière question, mais vous avez déjà, je crois, en partie répondu, la question patrimoniale. Donc, quel sens donner à la conservation de ce qui est par nature éphémère ? Quelles traces en garder ? Quelle réponse apporter à cette question vraiment si difficile, me semble-t-il ?
C'est là aussi, comme c'était un laboratoire de l'innovation, c'est un laboratoire pour le patrimoine. C'était donc, comme on a un tel champ d'expérience là, et d'éclectisme, et d'éléments remarquables, que vraiment c'est un élément particulièrement significatif, au moins pour le patrimoine du XXe siècle, de pouvoir travailler dans ce milieu-là avec les collectivités, avec les habitants, pour connaître avec les habitants et voir avec eux le degré d'appropriation que peuvent avoir les habitants par rapport à ce cadre de vie exceptionnel. Et donc, par rapport à ça, c'est aux habitants et non pas à nous à dire comment ils comptent transmettre l'héritage. Et c'est leur propre héritage. De ce côté-là, non pas que je refuse le travail d'expertise, mais qu'au contraire, l'expert est là pour accompagner le besoin d'appropriation des habitants par rapport à cette architecture tout à fait exceptionnelle par sa diversité et par sa qualité. Donc ce qui, moi, me semble être, en tant que conservateur du patrimoine, essentiel, c'est de pouvoir aider à transmettre l'intérêt de ce capital qui est sur le milieu littoral pour qu'ensuite les aménageurs, mais surtout les gestionnaires et les élus et pour les habitants, puissent éventuellement voir comment le transférer et le transmettre. Mais c'est tout ce qu'on peut faire.
Je vous remercie. Je crois que maintenant, donc, on va pouvoir se quitter. Bernard Toulier signe l'ouvrage qu'il a publié, qu'il a dirigé, et qui était donc le prétexte à cette rencontre. Et vous pourrez comme ça voir de plus près sa célèbre cravate thématique. Et voilà, je vous remercie.
Merci Bernard, merci Claude. Nous éditerons cette conversation. Merci Bernard d'avoir eu cette idée d'inviter un contradicteur. Vous êtes invité à acheter le livre La librairie.